Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de RPG, un nouveau podcast centré sur le RPG, comme vous l'aurez remarqué vu le très beau titre, du RPG au sens large, action RPG, dungeon RPG, tout y passera, que ça soit japonais, occidental, mais seul point commun, qu'au travers des goûts et des visions des intervenants du podcast, intervenants que je vais tout de suite vous présenter, puisque pour ce numéro 1, nous allons rester en comité restreint. J'aurai deux invités avec moi qui seront experts en RPG, et la première c'est Azura. Bonjour Azura.
Bonjour tout le monde, mais expert en RPG c'est peut-être un petit peu too much.
Ah mais faut bien que je vous vende, hein. Les oui, auditeurs bon, feront leur avis après.
Ils vont se rendre compte rapidement de la supercherie, donc je suppose que je dois me présenter. Azura, qui officie sur Jeux de Pixels, traditionnellement, on va dire lead de podcast, en tout cas présentatrice du podcast de Jeux de Pixels. Et là, bah, je viens dans le rôle le plus agréable de tout podcast, celui de d'accompagnement de podcast, d'accessoire au podcast et non de lead.
Mais sur Jeux de Pixels, vous parlez pas que de RPG.
Ah non, sur Jeux de Pixels, on parle d'un petit peu de tout. Grosso modo, le podcast, il s'axe autour d'un jeu, d'une thématique, en fait. Alors, traditionnellement, c'est un jeu. Parfois, on fait sur des consoles, donc en général, on fait hardware, software. Et puis, à une époque, on faisait des thématiques. Pour le moment, c'est pas encore revenu, parce qu'on préfère s'axer sur un jeu et rentrer en profondeur dans les détails de celui-ci. Et sinon, il y a des articles et des vidéos.
Voilà. Ah oui, des articles pleins de spoilers, j'ai eu.
Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, parce que cette personne qui s'en occupe, parfois, n'a pas beaucoup de temps pour écrire.
Ce qui fait dans des podcasts de RPG, non, c'est ça?
Je ne vois pas de qui tu parles, mais en plus, le problème avec les spoilers, c'est qu'il faut que ce soit un peu intéressant et que ça permette d'expliquer aussi une certaine analyse, parce que spoiler pour spoiler, je trouve ça un peu inutile, donc non, faut attendre de trouver le bon axe. Et des bons éléments à utiliser.
Je suis bien d'accord. Voilà. Et notre second intervenant, ce sera Elincia.
Alors, Elincia, salut à tous.
Salut. Toi, on te retrouve un petit peu partout, hein. Et, monsieur, je piche partout où je peux.
Non, mais j'ai des doppelgangers, en fait. J'ai pas caché, mais...
Alors, si je cite pêle-mêle, ça donne gamecult.com, ça donne chroniquecart.com.
Caution RPG de pas mal de sites, en fait. Caution RPG de gamecult, caution RPG de games et de chroniquecart. Hein. Parce qu'à la base, du coup, j'ai fait un peu mon petit bout de chemin sur Légendaire RPG. Donc, un site amateur, plus grosse base de données de RPG en France. Mm-hmm. Bon, je me la pète un peu, mais bon.
Tu te la pètes un peu, là.
En même temps, tu es la valeur crédible, hein.
Ouais, voilà. Et donc du coup, je bosse aussi en tant que pigiste toujours pour donc le nouveau magazine de RPG, RPG Player, qui est dont le numéro 2 est en kiosque d'ailleurs, je fais un peu ma pub. Allez-y, il y a plein de dossiers super intéressants.
Ouais, et il y a une super critique de Xenoblade.
Ah ouais, mais je me demande qui l'a fait.
Vous vous vendez tellement bien à côté de moi.
On se vend bien. Ah non, ah, mais bah, on faire son bise, hein, voilà.
Ah bah en passant, et puis du coup, peut-être que certains m'ont reconnu, Vidoc du site archaïque.fr que j'ai fondé il y a quelques temps, du podcast Bullet Time comme mon compère Elincia.
Tout à fait.
Et du magazine RPG Player actuellement dans les kiosques. Achetez-le, il est bien, et puis on a sacrément taffé dessus.
Surtout toi.
Donc moi, tout ce que je veux dire, c'est il paraît qu'il est bien. Voilà.
Il paraît qu'il est bien.
Mais faut l'acheter, ça, madame.
Mais je n'ai pas le temps. Non, pas de l'acheter, mais de le lire, en tout cas.
Ouais, parce que ça prend pas trop longtemps. Bref. Alors, comment va s'articuler RPG? Alors, nous allons d'abord balayer les sorties RPG notables du mois passé. Rien d'exhaustif. Vraiment, chacun va les présenter à sa façon. Il est très simple de trouver une liste sur le net, et puis c'est pas le but. Rien que sur Legendra, qu'on disait, il est facile de trouver tout le listing de toutes les sorties. Puis un gros morceau actu du moment, où là on reviendra sur les événements, sur les grosses annonces. Autant dire que là, c'est pour ce numéro 1, merci Square Enix et leur conférence Dragon Quest.
Enfin, moi je les remercie pas, mais bon.
Oui, on en discutera.
On va en discuter. Et après une petite pause musicale, on abordera nos RPG du moment, où là on va vraiment parler impression, avis, les RPG que nous sommes en train de faire. Alors il y aura de tout, pas forcément du RPG actuel. Et on finira sur les sorties que l'on attend, toujours une liste non exhaustive, vraiment, nos envies pour le prochain podcast, parce que mine de rien, même dès ce numéro 1, on aimerait bien tabler sur un format mensuel. Voilà, donc autant rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les sorties que nous avons retenues sur le dernier mois, dernière semaine,
on est en petit...
on étend un peu parce que en juillet il n'y a pas grand chose et on a étendu un peu à juin et donc Azura, tu veux nous parler de Fire Emblem?
Non, mais Fire Emblem If ou Fate chez nous, Birthright, Oshido, comme vous voulez, Nord, Conquest, comment
on fait des noms.
Bah oui, forcément, vu qu'en Europe, pourtant c'est parce que c'était compliqué, hein, mais la politique de localisation suivra son chemin. Et donc, Fire Emblem Eve, enfin, les protours qu'on a eu du Japon sont quand même assez fous. Quels que soient, en tout cas, les magazines qui l'ont testé, j'ai pas vu vraiment de critiques, à part que ça revient très cher. Il faut quand même rappeler que ce Fire Emblem, c'est comme un Pokémon, c'est en deux versions.
Avec une troisième optionnelle.
Même la troisième qui sort en DLC.
Oui, après, on a le DLC du troisième scénario, qui est le scénario où on choisit rien. C'est bien ce que j'ai compris d'après les trailers qu'on a pu voir même, qui est disponible pour tout le monde. Hein. Mais donc Fire Emblem Eve qui a été annoncé il y a un moment par Nintendo, je sais plus, un an quand même. Enfin, il a été annoncé vachement en avance sans Fire Emblem.
C'est pendant un Nintendo Direct, je crois.
Le Nintendo Direct de janvier.
De janvier aussi. Seulement
bah, en tout cas, il y a eu une grosse vidéo en avril.
Ouais.
Parce qu'ils ont remontré la partie... Fire Emblem Cross Shin Megami qui sortira lui à Noël sur Wii U. Et ils avaient axé le Nintendo Direct sur les deux, mais le Fire Emblem If était déjà montré. Il me semble que c'était celui de janvier, du coup.
Ouais, c'est possible. C'est fort possible.
Ça me semblait beaucoup plus lointain que ça, franchement.
Mais de toute manière. Tu l'attendais peut-être depuis longtemps.
mais pour nous, Fire Emblem, de toute manière, ça sera lointain, vu que c'est pour 2016. Et ça reste toujours un vague 2016, donc ça peut être aussi bien début 2016 que fin 2016. J'espère début 2016, après Nintendo fera son chemin. Mais ensuite, les questions qu'il y a sur Fire Emblem Eve, ça va être aussi la question de la localisation. Vu que on aura... Alors ça, concrètement, c'est pas le cœur du jeu, mais la localisation va peut-être aseptiser certains points, un petit peu comme dans l'histoire de Awakening. Lorsque c'est passé en Europe, il y avait deux personnages qui pouvaient potentiellement se marier, mais comme ça faisait une histoire de cousin-cousine en Europe, on l'a squeezé. Enfin, il y a eu des histoires comme ça, en tout cas.
Ah bah surtout dans celui-là, il y a les... Je sais pas si on peut aller jusqu'au mariage, mais en tout cas, on peut former des couples gays et lesbiens.
Alors, par contre, faut quand même préciser deux, trois choses sur ce sujet-là. C'est qu'il s'agit de un personnage féminin qui sera donc lesbienne, et un personnage masculin qui sera donc aussi homosexuel. Donc, il n'y a pas... Et ça dépend de la version que vous achetez. Alors là, j'ai plus en tête, mais selon... la version donc Oshido ou la version Nord, vous aurez un seul des deux personnages. Donc si votre objectif c'est de faire un mariage homosexuel, renseignez-vous avant parce que sinon ça va
on
pas
peut être
déçu.
Après,
voilà,
il faut noter
c'est ça.
Un truc aussi parce que ça a déclenché une polémique, il faut le mentionner. Le perso lesbien ou gay, je ne sais plus lequel, en fait à un moment donné du scénario apparemment, il lui est proposé en fait de se guérir de cette déviance en fait.
Donc... alors tu vois, ça c'est un autre truc, mais il me semblait que c'était une personne, on m'a dit parce que je me suis pas renseignée sur l'affaire, ça ne m'a...
Vas-y, balance des noms là.
On m'a dit que c'était une personne hétéro en fait, c'est un personnage qui avait une relation par la suite hétéro, mais qu'au début, enfin, il y avait une histoire de poudre. C'est bien de ça dont tu parles, il me semble.
Ouais.
Et... Ah, c'est ce que j'ai lu aussi. Ouais, une poudre qui permettait justement de sortir avec.
Mais c'est toujours un peu tricky de jouer avec ce secteur-là des orientations sexuelles. C'était pas forcément bien vu, je pense.
Mais
après, ça se débat. Mais
après, Fire Emblem, ça c'est pas non plus une vision assez... Il n'y a pas de message politique dans Fire Emblem, enfin, sinon
non, bien sûr.
Ça serait un peu triste.
Mais... faut s'adapter à la société dans laquelle tu vends le jeu, tu vois ce que je veux dire?
C'est sûr, mais moi je vois pas... Moi je le vois plus d'un point de vue naïf que d'un point de vue... comme ce qu'on a pu malheureusement connaître par exemple en Occident de temps en temps.
Oui, mais la naïveté, parfois, ça cache la discrimination. Enfin, bref.
Après, moi,
on va pas déblatérer là-dessus, mais...
Si tu veux, j'attends d'avoir soit le texte japonais sous les yeux, me le traduire, plutôt que d'avoir des versions interprétées par des personnes.
Tout à fait.
Ça fait beaucoup de on-dit pour l'instant.
Oui, attendons d'avoir le jeu, c'est sûr, mais si ça s'avère vrai, c'est vrai que c'est pas...
Je te dirais qu'on a connu pire.
Oui. Mais je voulais revenir, moi, vite fait, quand même, sur... Ben, je vais faire le monsieur stat, là, mais... Fire Emblem If, là, au Japon, sur, il est bien lancé pour être le second Fire Emblem le plus vendu au Japon. Donc là, il talonne Awakening, en fait.
Ah.
Donc c'est pour dire à quel point c'est un succès depuis Awakening. La série a connu un rebond, mais fantastique.
Sachant que Awakening avait un scénario quand même assez terre-à-terre.
Oui, qui puait du cul, on peut le dire.
Oui,
mais,
voilà,
mais avec des vrais personnages.
Avec
de vrais personnages, parce que les...
Pardon
les
non, ils n'ont pas de pieds, c'est pas des vrais
gens. Non, non.
Les précédents Fire Emblem, c'était très souvent des personnages, étant donné qu'ils misaient tout sur le système de où le personnage pouvait mourir à tout moment, ils les travaillaient pas forcément énormément.
Je suis pas d'accord. Je trouve beaucoup plus travaillé les personnages qui étaient présents sur GameCube et Wii que les personnages que j'ai pu voir dans Awakening.
Ouais, je suis d'accord.
À part Chrome et Lucina, tout ça...
Ah, je n'irai pas m'aventurer trop dessus quand même. Mais moi, enfin, les Fire Emblem pour l'instant, moi je suis pas un immense fan dans le sens où j'y ai pas beaucoup joué. Moi, j'ai fait les débuts de beaucoup de Fire Emblem, mais je suis pas forcément allé jusqu'au bout. Et il me semblait que justement, Awakening était plus dans l'histoire.
Ah non. Ah non. C'est plus l'inverse.
Ah oui, c'est totalement l'inverse.
Ouais.
Ah bah autant pour moi. Du coup, je vais les lancer, on en débattra.
C'est un peu du free roaming Awakening, ça veut dire que tu fais un peu ton petit bonhomme de chemin et quand t'as envie de faire le scénar, bon, tu retournes. C'est pas très palpitant, mais bon. T'as des bonnes batailles, mais c'est tout, quoi.
C'est tristement classique. Surtout quand t'as fait, par exemple, les épisodes GameCube et Wii qui sont... Enfin, surtout au niveau de la géopolitique qui est un peu fofolle, vu tous les clans et les sous-clans dans les clans. Alors que là, bon, bah, tu retournes avec
ton bateau. Plus travaillé, plus élaboré, plus fouillé, quoi, les épisodes GameCube et Wii. Et voilà, tout simplement. Le numéro sur 3DS était plus bon enfant, en fait.
Oui.
Même si t'as un ou deux passages un peu trash, enfin trash c'est un grand
trash,
mot.
Oui, trash, trash dans le JRPG.
Oui, c'est un grand mot, on va dire un peu dur, voilà, mais c'est tout quoi. Ils ont pas fait des folies.
Donc... moins ils font de folies, mieux les jeux se vendent en fait.
Bah oui, c'est ça, apparemment.
Non, alors après.
Bon, après le hardware GC était pas, il y avait pas un.
Oui, était moins bien implanté qu'une 3DS.
C'était pas non plus, c'était pas la terre des hardcore gamers quoi. Donc,
voilà. Et là, je suis plutôt d'accord. Ouais.
C'est surtout une ouverture au niveau du gameplay qu'il y a eu et abandonner le système qui est très très archaïque des Fire Emblem qu'il y avait avant. Par exemple, pour récupérer un personnage, c'est dans le Path of Radiance, donc l'épisode GameCube, il fallait faire tout un truc. Si le Ike, il avait pas les bonnes stats, tu te faisais one shot direct, tu pouvais même pas récupérer le personnage, même parfois t'avais des personnages que tu pouvais récupérer en allant à telle case dans un niveau qui était enfin assez compliqué
ouais,
à gérer,
fait, ouais.
On voit duquel on parle, mais enfin et abandonner tout ça, bah ça a permis forcément à la série de s'ouvrir. Et l'idée, bah déjà dans le Awakening, on avait une mini base dans laquelle on pouvait, base en tout cas textuelle, où on pouvait interagir et surtout faire du level up, ce qui est mine de rien intéressant parce que lorsqu'on se mettait en niveau hard dans les anciens Fire Emblem, il y avait pas le choix, fallait avancer.
Ouais, c'est plus puriste comme style d'expérience. Et donc, forcément, quand t'enlèves ça, tu touches automatiquement un plus large public.
Et là, bah, ils ont continué l'ouverture avec tout ce qu'on disait. Bon, l'ajout des deux, trois petits trucs de fanservice, qui fait que ça permet à la série de se rentabiliser, soit pour jouer avec le côté otaku de chacun, soit aussi pour vendre tous les objets dérivés, parce que on l'oublie souvent en Occident, mais au Japon, c'est un grand marché, tout ce qui est objets dérivés. Et c'est ce qui rentabilise plus, par exemple, les animés que les jeux vidéo également. Et
ah bah là,
c'est pour ça qu'ils ont ouvert.
Bah oui, puis ils ont mis un jeu de cartes. En même temps, Nintendo, ils sont pas fous.
Non.
En plus que les Amiibo qui vont arriver.
Et les Amiibo permettent de débloquer les personnages dans le jeu.
Et en même temps, t'as eu Smash Bros aussi qui a fait rentrer 3-4 persos, 3 persos je crois de Awakening. Ça a fait un peu leur beurre aussi.
Mais puis ouais, ils reviennent tout à fait.
Mais après, c'est clair que sur cet été, je pense que Fire Emblem If c'est la grosse sortie, enfin en tout cas du début d'été, il y a pas trop de contestation possible.
Et il a surtout un boulevard.
Bah
oui,
il a mangé Langrisser qui était quand même le gros revival de cet été.
Et surtout qui était l'ancêtre de Fire Emblem dans un certain sens.
Et en fait, c'est un gros pétard mouillé qui s'est fait démolir par Famicom, démolir par les ventes. Moi, je voulais juste parler de Stella Glow, mais vraiment 30 secondes, parce qu'en soi, le jeu est pas du tout marquant, mais ça devait être quand même le jeu anniversaire pour Image Époque au mois de juin. Et en fait, voilà, RIP, le studio a fermé, Stella Glow est quand même sorti, mais le Luminous Arc Infinity est passé dans les mains d'un autre studio. Et pourtant, Image Époque, c'était quand même pas mal de bons RPG sur
c'était,
tout
support. Non, c'était pas beaucoup de bons, c'était beaucoup de RPG différents, on va dire.
Alors, il y avait de tout, je suis d'accord.
Il y avait vraiment de tout, quoi.
Tu prends Time and Eternity, était franchement mauvais, mais t'avais Criminal Girls, Last Ranker.
Arc Rise Fantasia, surtout, qui était génial.
Arc Rise Fantasia, tout à fait. Il y avait les deux trilogies, Luminous Arc et Seven Dragon.
T'avais le Dungeon RPG, là, putain, j'ai plus le nom, mais qui était sympa, ils avaient fait un truc un peu dark, c'était sympathique aussi. Non, mais ils avaient quelques bonnes idées, mais il y a eu un truc assez... Bon, on rappelle quand même vite fait, il y a eu un phénomène un petit peu bizarre autour du PDG de la boîte qui s'est un peu évanoui dans la nature et que personne n'a retrouvé.
Ouais.
Donc, du coup, en même temps que son entreprise était en train de couler, donc...
C'est étrange.
C'est très mystérieux, la fermeture de cette boîte, donc je pense qu'on en saura peut-être plus un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est énigmatique. Voilà.
Bon, eh ben, merci RIP. Bien.
Donc, RIP, Image Époque, malheureusement, et donc Luminous Arc qui arrive en août sans Image Époque. En grand revival, du coup, là, on va rentrer dans la partie actu, vraiment. Conférence Square Enix, en direct des locaux de Square Enix. 28 juillet, 17h à Tokyo, 10h chez nous. conférence très attendue. Parce que forcément, tout le monde sentait le Dragon Quest arriver. La veille, courant de journée, un logo fuite. Dragon Quest 11. Mm-hmm. Et cette conférence...
Et tous les Japonais s'assitent sur leur bureau.
Voilà. Bon, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de Français, beaucoup d'Américains.
Américain, peut-être, français, je sais pas, mais on en reparlera. Mais...
Ah bah j'y étais.
Oui.
Moi j'étais là pour Final Fantasy VII, pas pour Dragon Quest.
Quoi? Mais n'importe. La fille complètement hors sujet. tout le monde attendait Dragon Quest et tout le monde a eu du Dragon Quest et beaucoup de Dragon Quest.
Trop de Dragon Quest.
Certains même diraient trop, mais bon.
8 Dragon Quest, mine de rien. Mmh. Alors on va pas revenir sur forcément sur les Dragon Quest plus anecdotiques mais qui sont pas forcément ceux qui rapportent le moins d'argent à Square Enix puisque il y avait un Dragon Quest Monsters je vais peut-être dire de bêtises Battle Scanner qui sort en arcade. Il y avait Oshino Dragon Quest qui sort sur mobile pour faire suite au succès de Super Light qui a rapporté énormément de thunes à Square Enix. Donc ça, bon, on va laisser un peu de côté, puis en plus Battle Scanner c'est pas vraiment un RPG. Et je vous propose de s'arrêter un peu plus longuement sur les autres Dragon Quest qui étaient montrés, dévoilés.
Mais est-ce que le reste ce sont vraiment des vrais RPG? C'est ça aussi la question,
Dragon Quest Builders... Monster, Joker 3.
Ah non, mais ça c'est un RPG, c'est incontestable, ça.
Voilà,
Là c'est du quand même, on est à fond dans le RPG.
Et d'ailleurs, faut savoir quand même que Dragon Quest Monster Joker, c'est vraiment un tabac de dingue au Japon. Quelque chose, c'est un phénomène vraiment. C'est en dessous de mode, mais pas très très loin non plus, hein, au Japon.
Mais ils ont raison, ces Japonais. Ils ont raison. Vous avez fait le 1 et 2?
Le 1 est tellement ennuyeux.
J'ai pas joué, moi j'ai juste regardé les chiffres quand j'avais fait un article là-dessus vite fait. Et c'est un truc de malade en fait.
Là, attends, il va y avoir baston, j'ai cru entendre que Joker 1 était ennuyeux.
Bah ouais, c'est un Pokémon mais en moins bien en fait. Moi ça m'a pas du tout accroché.
Mais quand il est sorti en plus, il était d'une beauté sur DS.
C'est pas parce qu'un jeu est beau qu'il est forcément bien.
Non mais déjà il était impressionnant. Non, attends, c'est pas ce que j'ai dit. Il était très beau et ce qui était un fait rare pour un Dragon Quest. Les Dragon Quest étaient pas.
C'est moche d'habitude, oui, voilà, merci de le reconnaître. C'est sympa. C'est gentil.
Sont pas réputés pour être.
Pour être moche, si,
les étalons sur leur console.
Oui, oui.
Et non, et après, le principe de monstre et de.
En même temps, tu parles de beauté aussi sur DS, 3D.
Non, mais après
pour l'époque.
Non, mais en plus, il faut savoir un truc quand même, faut rappeler vite fait, c'est que la mécanique Pokémon, c'est-à-dire le truc des captures de monstres, ça a été d'abord implanté comme une feature dans Dragon Quest V, et ensuite, ça a été repris par Pokémon 2 ans plus tard. Et à la base, la paternité du système, vraiment, comment il a été conceptualisé, comment il a été finalisé, on va dire, dans les jeux qu'on voit encore maintenant aujourd'hui, par exemple, dans FF13-2, par exemple, t'as une capture de monstres aussi, ça. Et tout ça, ça vient de Dragon Quest V. Mais ça, tout le monde l'a oublié. Sauf que, à la base, c'est vraiment Dragon Quest, et Dragon Quest Monster Joker, c'est vraiment, ils ont repris le système et ils ont fait une série.
Les Monsters, sur Game Boy, déjà.
Ah oui, tout à fait.
Parce que Joker, c'est juste un aboutissement des Dragon Quest Monsters qui étaient sortis sur Game Boy et qui ont d'ailleurs été refaits sur 3DS.
Exact.
Bon, en tout cas, Joker, c'est plus pour ceux qui sont fans de l'univers, qui veulent faire un Pokémon dans l'univers de Dragon Quest, sinon...
Mais on est d'accord là-dessus.
Voilà.
Il n'y a pas,
y a pas de gros scénario.
Ah, mais clairement, c'est
scénario
du
niveau
Pokémon-like,
Team Rocket, voilà.
C'est du Pokémon-like.
Ouais, j'aimerais bien revenir sur deux éléments de la conférence, quand même, qui m'ont semblé un peu marrant. Juste le premier, c'est que... cette frénésie Dragon Quest, c'est marrant qu'on la voie que maintenant, en fait, parce que ils avaient fait ça avec Final Fantasy à partir de 2008-2009. Ils ont commencé à faire plein de spin-offs, plein de remakes à foison, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient une deuxième licence monstre, en fait, que maintenant. C'est un truc dingue, parce que, bon, on est d'accord, il y a eu quelques remakes sur 3DS, machin sur DS, même, il y a eu des liftings, des jeux qui ont été ressortis, mais jamais quelque chose de l'ampleur de ce qu'avait connu Final Fantasy, avec la compilation FF7, des trucs comme ça. Et c'est marrant qu'ils aient ce petit éclair de génie, en fait, ils l'ont en 2015, tu vois. Mais c'est une stratégie super viable, parce que c'est... En plus, on en reparlera, mais je pense pas que ce soit pour flatter l'Occident, pour faire exister la marque en Occident. Et ils ont une fanbase au Japon qui est juste énorme et gigantissime, et que ça, c'est la stratégie pour se faire du flouze, quoi. Et ils ont tapé juste, et je pense que ça va très bien marcher.
Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que, par exemple, ils ont annoncé le Dragon Quest 11 sur PS4 et sur 3DS, c'est parce qu'ils savent très bien que le marché japonais, il est sur console portable, et non sur console de salon. L'Occident, c'est plus ses consoles de salon. Ça peut paraître étrange pour des personnes d'entendre PS4, 3DS, sachant qu'on parle de Sony et Nintendo, on n'est même pas chez la même crémaillère. Mais en tout cas, franchement, c'est le best plan business possible.
Mais je pense aussi qu'ils avaient épuisé les deux autres. Et en fait, ils ont trois licences phares, quoi, Anix. Ils ont Final Fantasy, Kingdom Hearts et Dragon Quest. Et Final Fantasy, ils l'ont bien essoré.
Kingdom Hearts arrive bien largement au troisième.
Oui, et puis est-ce que ça existe encore? Ça fait longtemps quand même qu'on
En termes de vente, je suis d'accord.
Bien, ah non, en termes de business généré, moi je te parle de quelque chose de global,
ouais, les produits dérivés. Oui, mais regarde Kingdom Hearts, tu as déjà tout plein de dérivés. Tu as les spin-offs, la série à rallonge, etc.
Que...
Ça n'a pas l'aura d'un Dragon Quest au Japon.
Alors,
et c'est pas les mêmes raisons.
Avec toi. Mais ils ont déjà essoré ces deux-là. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et les 30 ans de Dragon Quest arrivant, forcément, ils se sont dit, pourquoi pas? D'autant que Dragon
Quest... Non, mais
Quest...
c'est bizarre que c'est pas été simultané, en fait, si tu veux. C'est ça que je me suis dit. C'est que ils avaient totalement la place de faire une offensive Final Fantasy d'un côté, une offensive Dragon Quest de l'autre. Et c'est bizarre qu'ils aient pas marché en symbiose, en fait, les deux, tu vois.
Ouais,
c'est comme, tu vois...
Oui, tu brûles pas toutes tes cartouches d'un coup. Enfin, là, ils sauraient Final Fantasy jusqu'au bout, je pense.
Mais non,
maintenant, ils passent à Dragon Quest.
Le truc, c'est que cette stratégie, tu peux le jouer sur le long terme. T'as pas besoin de faire comme s'il y avait une concurrence entre les deux, parce que c'est pas le même public. Tu peux faire les deux en même temps et les faire marcher en parallèle. Par exemple, tu vois, c'est bizarre qu'ils aient attendu de faire deux Fitrism Final Fantasy avant d'en sortir un Dragon Quest, alors que c'était l'évidence même, tu vois.
Ça me paraît crédible, étant donné que, en fait, le second Fitrism, c'était juste une version plus, la Director's Cut avec les DLC,
c'était une méga plus version.
Ah non, la Curtain Call, c'est quand même plus Prism. Tu rajoutes tous les DLC.
Morceau,
hein. Là, t'as juste le jeu de base. Tu rajoutes encore des modes supplémentaires. Et tu rajoutes encore plein de DLC.
Non, mais oui, mais elle est bien, cette version. Je dis juste que...
Oui, non, mais...
Voilà, une chose à la fois, je pense. Et ils ont raison, Square, de pas tout mélanger en même temps. Comme ça, bah là, ils peuvent bosser tranquillement sur leur projet.
Non, mais pour donner un exemple, le fait qu'ils aient lancé ça sur Dragon Quest, ça va pas leur faire mettre la pédale douce sur Final Fantasy. Et au final, tu verras, les deux vont être... totalement, comment dire, pas en concurrence, mais parallèle, elles vont être en parallèle, et c'est ce que ça aurait dû être dès le début, dès le départ où ils ont mené l'offensive sur FF, ils auraient dû faire ça. C'est bizarre qu'ils le font comme maintenant, enfin moi je comprends pas, enfin, c'est bizarre.
Bah, ce sont des Japonais derrière. Les Japonais,
non,
il y a encore
mais...
pas si... Attends, laisse-moi finir. les Japonais, il y a pas si longtemps, je vais l'utiliser mon tatata. Les Japonais, jusqu'à pas si longtemps, ils pensaient que les JRPG en Europe, ça marchait peu, à part Final Fantasy et quelques autres élus. Et Dragon Quest, ça pouvait pas marcher, ils ont sorti 8.
Oui, mais alors...
Et on a quand même découvert la série au 8e numéro. Donc ils se sont dit, on sort le 8. Bon, on sort le 9, on sort les principaux. Ça marche aux États-Unis, ça marche en Europe, beaucoup
moins
au Japon.
Moins.
Mais ça fonctionne. Dragon Quest Heroes arrive, fait un tabac au Japon, ils le sortent en Europe, ils voient que les fans attendent. 30 ans de Dragon Quest, ils disent, bah voilà, c'est le moment, on va sortir Dragon Quest à l'international.
Mais alors, je suis pas d'accord là-dessus, sur le fait que cette offensive, enfin, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit l'objectif primaire, on va dire, de cette offensive Dragon Quest, parce que je pense que Dragon Quest, tu peux pas raisonner en termes internationaux, ce sera et ça restera le Japon. Et je pense qu'au pire, enfin même au mieux, je veux dire, pardon, au mieux, conquérir l'international, c'est un objectif secondaire pour, avec tous ces jeux Dragon Quest. Je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qu'ils essayent de faire leur business sur l'Occident. Bien sûr, ça va ramener des ventes, ça va ramener un peu de thunes, mais là, c'est vraiment pour cajoler le public japonais. Hein. C'est, à mon avis.
Bah, si tu regardes, ils sortent quand même Dragon... donc, on va continuer. Du coup, après Joker 3, il y a quand même Dragon Quest X. Il y a eu pas mal de choses dites dessus, que notamment Dragon Quest X, qui est une exclusivité...
Rien n'est officialisé.
Sur le 10 ?
Pour l'Occident.
Non, on est d'accord. Voilà. Mais le 10, qui était une exclusivité Nintendo, bascule sur PS4. La PS4...
Oui, mais en même temps, tu regardes combien d'années d'exploitation de Dragon Quest X en tant que MMO.
Ah, beaucoup.
Et pas,
oui.
Et pas un, coup, un petit clin d'œil vers l'Occident. Pas un seul. Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Oui, je suis d'accord, mais ils se sont dit, à un moment donné, si on y passe, comment faire ? Ils auraient pu le sortir sur Wii U.
Non, mais après, ils se sont fait la main aussi sur la PS4 avec leur Final Fantasy XIV, où ils ont pu tester le online, et peut-être qu'ils vont utiliser des mécaniques similaires. C'est possible, hein. Pour essayer d'adapter le jeu, parce qu'ils vont devoir, le retravailler, hein, quoi qu'il arrive. Enfin, c'est le 10, mais ça sera le 10 un peu retravaillé. Ils peuvent pas le sortir tel que.
Non, il sera plus beau, il sera, ils vont très certainement rajouter des features un peu partout. Et puis, juste pour le lancement, ils vont lui donner un coup de polish. Et après, ils verront pour l'améliorer, je pense. Via des extensions et autres.
Oui,
mais voilà, le 10, s'ils voulaient le sortir en, ils veulent le sortir en Occident, ça passe forcément par la PS4.
Puis le 10, il y a aussi l'histoire de la NX, hein. Donc il quitte peut-être pas totalement Nintendo.
Après, faut voir ce que Nintendo leur a promis. Bah voilà, faut savoir ce que c'est.
On sait pas ce que c'est la NX. Après, la Wii U, bon... j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui me donnent plus d'espoir, mais c'est vrai que actuellement, bah, elle vit sa petite vie de console Nintendo, et puis dans quelques années, elle s'éteindra comme une petite console Nintendo, hein.
Oh, quelques années, tu peux passer au singulier, hein.
J'essaye d'avoir de l'espoir.
Moi, je voulais revenir quand même vite fait sur la conférence, sur la forme en fait, de comment était annoncé Dragon Quest 11. C'est marrant parce que c'est quand même ce sera un triple A sur PS4, c'est sûr. Et les premiers screens ou la première vidéo qu'on a vue, c'est du off-screen, c'est-à-dire c'est un petit truc moche, c'est une sorte de petit prototype super vide. On voit, il y a juste un village, il y a même pas de combat, on se promène un petit peu. Et c'est pareil, en fait, sur la 3DS, on voit un écran filmé d'un peu loin, un peu.
Oui.
Bon, on voit le concept avec un écran qui est en 2D old school, un écran qui est en 3D 3DS.
Oui, on aurait peut-être parlé de ça, que sur 3DS, il y avait une adaptation et que pour les fans, on va dire de rétro, il y a une version old school sur l'écran du bas.
Ah, mais c'est sympa, ça.
Oui, non, tout à fait, c'est tout à fait sympa, mais ce qui m'a semblé bizarre, c'est que c'était pas plus formalisé, qu'on n'ait pas un beau trailer bien fait. Enfin, pour un jeu de cette envergure, pour un projet de cette envergure, c'est bizarre cet amateurisme, en fait. J'ai trouvé ça très, très étrange, en fait. Pour une boîte qui fait les Final Fantasy Active Time Report, qui a Tabata, quand même, qui fait des trucs super pro. Et là, t'arrives dans la conférence Dragon Quest, t'as de l'amateurisme communiquant au niveau infini, et t'as cette espèce de merde qui dépose avec DQ11 sur PS4 où c'est super vide, le gars il se promène sur des bâtiments un peu dégueux, bon voilà.
Alors,
j'ai trouvé ça très bizarre.
On parle de Square, hein, le gars qui est venu pas, c'est T-Cube, hein, mais le dernier E-Cube présentait un remake de Final Fantasy VII, un portage de Final Fantasy VII. Tout le monde attendait l'annonce du remake,
oui,
mais il s'est ramené sur scène pour annoncer un portage.
La PlayStation Experience, oui.
Voilà, là, on est d'accord que c'est pas de la bonne communication.
Mais là, j'en viens à me demander si des synergies se font vraiment, en fait, entre le pôle Final Fantasy qui gère bien son truc maintenant avec FF14 et FF15 et le côté Dragon Quest. Et je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas plus d'harmonisation, en fait.
Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Franchement,
okay.
La communication, d'accord, au niveau du Japon, ça a toujours été assez compliqué. Ils sont très très doués en merchandising, tout ça, mais dès que tu parles de vraie communication sur les projets...
Mais la différence viendrait-elle pas du fait que Final Fantasy, on parle forcément à l'international. On sait que les vidéos vont être vues par tout le monde, etc. Dragon Quest, c'est plus confidentiel. La conférence était entièrement en japonais. Absolument pas sous-titrée, traduite, rien du tout.
Mais tu crois que les amateurs de DQ au Japon, ils sont pas réceptifs à une vraie bonne communication ?
Ben, vraie bonne communication. Là, on voyait que des gens jouaient. Très souvent, on reproche de voir trailers et de dire trailer, c'est de la CG, c'est beau. Mais là, au moins, le jeu...
Ils sont très friands, d'ailleurs, les Japonais, c'est vrai, de ces petites phases.
Bah oui, des phases de jeu.
Des phases
en
de
fait.
Jeu, ouais. Mais non, ils sont très friands. Mais après, il y a une mise en scène aussi derrière avec les commentateurs. Je sais pas si tu écoutais un petit peu. Il y a toujours cette petite mise en scène.
Oui, avec, et puis qui était surpris à certains moments,
voilà,
etc.
Voilà. Ça marche très bien, ça.
Et je te rejoins sur la version PS4 qui semblait pas très avancée. Par contre, la version 3DS, le village était complet, ils visitaient les maisons,
elle
discutaient avec les PNJ.
Elle a l'air plus avancée que la version PS4.
Ouais, elle a l'air beaucoup plus avancée, il y avait déjà
elle a l'air de bien moins demander, en fait.
Ah bah forcément. Mais je pense que la version 3DS est un petit peu plus avancée. D'ailleurs, c'est amusant de noter que les deux versions sont d'ailleurs développées en interne par Square, mais ils ont fait appel à deux studios... satellite et
oui,
de tiers,
bien, on va dire,
pour les épauler hein, là-dessus.
Bon, ensuite, à part cette grosse annonce Dragon Quest, on a aussi donc le Dragon Quest Builders qui avait fuité quelques temps avant, qu'ils ont présenté, mais qui ressemble juste à un gros Minecraft. Hein.
Mais ça, Minecraft-like.
Oui, et... du Minecraft dans l'univers Dragon Quest, je pense que ça peut faire que du bien aux fans, hein, ça, de toute façon.
Moi, je pense que ça va être un petit jeu sympa.
Ouais. Oui, voilà. Donc, je suis assez d'accord, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça peut être que sympa.
Et voilà. Le Quest Heroes qui est...
Bah, Heroes 2, et, ils n'ont rien montré. Ils ont montré un artwork.
Ouais, ouais. C'est...
Juste pour dire que maintenant, il y aurait de la coop. Et ça, par contre, c'est pas mal.
Ouais.
Parce
ça,
que quand
cool.
on joue à Dragon Quest Heroes, on se dit qu'au moins un deuxième personnage à droite, ça serait pas mal.
Et, c'est sympa.
Ouais, la coop jusqu'à 4. Donc, je pense que ça peut être sympa. Ce qui me fait un peu plus peur, par contre, c'est qu'il arrive quand même très tôt après le premier. Que le premier,
c'est
il est sorti en février de cette année.
Non, mais je pense qu'ils sont dans une logique Assassin's Creed, en fait.
Un Dragon Quest par an.
Ce qui n'est pas bon.
Non,
bah, surtout que là, ils en ont prévu 4 pour l'année prochaine.
Parce que là, des Dragon Quest, ils vont en avoir plusieurs par an. Mais un Quest Heroes par an, ça me semble pas infaisable.
Les gens vont se lasser, hein. Non, je pense qu'ils vont en faire deux très vite.
Ils vont tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle rompe, ils sont moins.
Non, je pense qu'ils vont en faire deux très vite. Et le troisième se fera un peu plus attendre. Bah, de toute façon, Dragon Quest Heroes 2, il va arriver en début d'année. Après, on va se manger du Dragon Quest 10, Dragon Quest 11. Donc, la
11,
fin d'année sera plutôt tranquille.
T'as de l'espoir quand même, hein. Le 11, je vois pas arriver de si tôt. Hein.
Le 11, ils ont annoncé 2016.
Oui.
Fin 2016, je pense à bon fin 2016.
Ouais, un bon mois de décembre.
Au Japon.
Ouais, mais il y a toujours des délais sur ces projets, tu sais bien.
On verra bien.
Moi, je vois bien, déjà seulement au Japon. Est-ce qu'on l'aura en Occident rapidement? C'est une autre question, un petit peu comme
Dragon
Quest 7 qui vient tout juste d'être annoncé pour l'Occident. Attention, ça fait 3 ans que le jeu est sorti, mais c'est pas grave. Hein.
Sur un malentendu, d'ailleurs, il a été annoncé. Donc,
Oui, bon.
C'est un peu bizarre, du coup, je me demande si c'était vraiment dans les tuyaux.
Ouais.
Parce que vu comment il l'a lâché les gens étaient tous surpris, etc. Enfin, même les gars de chez Square étaient surpris. Donc, ils sont surpris parce que ils voulaient le garder pour plus tard, ou ils sont surpris parce que ça a jamais été dans les cartons et lancer ça comme ça en pleine Japan Expo.
Écoute.
Et là ils disent ah zut, va falloir recruter maintenant pour traduire ça vite fait.
Mais moi, vu qu'ils annoncent ça, que rien du tout en tout cas.
Bah oui, du coup ça nous fait le 7 et le 8 qui a été aussi abordé rapidement là comme parce qu'il sort fin août. Il sort fin août sur 3DS au Japon.
Tout va bien. Au niveau des délais d'annonce et tout.
Ah, tout à
mais
fait.
Il y a eu d'autres annonces derrière moi. Hein.
On sent que tu veux quitter le sujet Dragon Quest. Hein.
Non, mais qu'est-ce que,
pour conclure là-dessus, qu'est-ce que vous retenez de cette conférence Dragon Quest? Dragon Quest, Dragon Quest 11, vous en fichez?
Non, mais moi, Dragon Quest, ça n'a jamais été ma cam. Je trouve les univers super random et c'est juste de la fantasy japonaise.
Je te soutiens.
Mais oui, voilà. Mais c'est intéressant la façon dont ils mènent l'offensive et je trouve que c'est quelque chose qui peut faire que du bien à Square Enix, qui peut que contenter les fans qui aiment ça. Et moi, j'y vois pas d'objection. Enfin, ils font très bien de faire ça. Et il y a pas de souci là-dessus. Je pense pas que ça leur prenne de ressources sur les projets, plus innovants qu'ils veulent faire, comme le projet Setsuna. Donc, c'est du tout bon pour moi.
Et toi, Zora?
Alors moi, Dragon Quest, bon, bah, malheureusement, je ne suis pas là pour le défendre. Je dis pas que je déteste, mais le scénario, en tout cas, je ne parle surtout que du Dragon Quest 8, vu que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de faire les autres. Je trouve ça assez simple et j'arrive pas à être emballée par les différents Dragon Quest, même pour le Monsters, impossible. La conférence m'a pas vendu du rêve. on a juste vu une phase de gameplay lambda, des artworks, Dragon Quest, puis voilà. J'attends de voir plus avant de me décider, et puis peut-être de voir aussi ce que va nous proposer la Enix, est-ce qu'on aura des nouvelles fonctionnalités spéciales, tout ça. Je reste optimiste, mais pour le moment pas très emballé.
C'est bien dommage. Moi, je les attends comme un petit fou. C'est deux Dragon Quest 11, la PS4 3DS.
Comme un petit fou, le Vinoc.
Mais ouais, moi, dès que ouvre les précommandes, je prends les deux.
Et dire, vous cassez ta hype, c'est juste ignoble.
Comment je suis trop déçu. C'est quoi ça?
Claque sa thune dès qu'il y a Dragon Quest sur le jeu, quoi.
Mais même pas, j'en ai fini qu'un seul.
C'est sale.
Donc comme quoi je suis pas une immense fan. Bon, si j'avais pas perdu ma sauvegarde du 8, j'en aurais peut-être fini.
Non, mais t'es en phase de conversion là.
Donc on va pouvoir aborder un autre sujet que Dragon Quest, qu'on a déjà dit pas mal de petites choses. Et Elincia, t'as abordé le sujet rapidement. Sur le projet Tri-Ace Spike Chunsoft.
Ouais,
qui a été annoncé là récemment avec un petit site et tout.
Ouais, alors ça s'appelle Exist Archive en fait, donc pour rappeler vite fait, donc Spike Chunsoft et Tri-Ace, donc on fait un petit site teaser, quand même bien les japonais, ça, ils aiment bien faire ça, tous les deux jours t'as un petit site teaser pour un jeu vidéo, etc. Donc pendant deux jours t'avais donc le logo de Spike Chunsoft et Tri-Ace, t'avais quelques noms qui étaient affichés, donc t'avais Masaaki Norimoto, le game designer de Valkyrie Profile, et Motoi Sakuraba, donc compositeur des Star Ocean et des Tales of, qui était affiché. Donc on se demandait qu'est-ce que ça va être, parce que Spike Chunsoft est surtout donc connu pour ses dungeon RPG. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'ils vont faire, enfin un petit Valkyrie Profile dungeon RPG, ils vont nous faire un Pokémon Donjon Mystère Valkyrie Profile, qu'est-ce qu'ils vont branler. Et au final, je crois que c'est hier, on voit que c'est Exist Archive, donc en gros, pour la faire courte, bon je vais expliquer, mais pour la faire courte, c'est un gros revamp en fait de Valkyrie Profile, c'est-à-dire ça va être son héritier spirituel qui reprend en fait les mécaniques de combat, les mécaniques d'exploration, le gameplay, donc avec les Einherjar, je sais pas si vous en souvenez, c'est quand on envoyait des gens au ciel pour récupérer des points, etc. Il y a ça, donc la bande son toujours, donc Motoi Sakuraba. À la programmation, ça va être Yoshiharu Gotanda, donc c'est-à-dire le PDG de Tri-Ace, qui était aussi à la programmation sur Valkyrie Profile. Donc ça va être vraiment un copier-coller structurel de Valkyrie Profile, parce que l'univers change un petit peu. Ça va être donc là le jeu va se passer en fait à moitié sur le Tokyo de nos jours et sur une autre planète, donc ce sera un petit peu futuriste cyberpunk, donc ça va un peu changer de Valkyrie Profile qui était un petit peu plus de l'heroic fantasy mythologie nordique.
T'es sûr que ça va se passer aussi sur Tokyo?
Ouais, Tokyo, ouais, si.
Ça, j'ai vu qu'en fait, ça commençait à Tokyo, qui mourait, les 12 personnages mouraient à Tokyo.
Oui, mais ça se passe aussi à Tokyo, on est d'accord ou pas?
Pas vraiment, parce que dans le sens où ils sont tout de suite propulsés, alors je crois que, comment elle s'appelle la planète? Protolexa.
C'est ça, ouais.
Et ouais, en fait, après, ils devront renvoyer des personnages sur Terre.
C'est ça, donc.
Mais qui restaient sur Protolexa.
Voilà. Donc, il y aura 12 personnages, en fait, et il faudra en choisir, donc, certains qui seront renvoyés sur Terre. Donc, on peut imaginer, même si ça n'a pas été confirmé, un système de plusieurs endings, comme c'était le cas dans Valkyrie Profile. Donc, c'est-à-dire, si on fait de la merde, on aura l'ending B ou C. Si on essaye de trouver la bonne combinaison, et je pense qu'il faudra un petit FAQ, on aura la fin A, la bonne fin. Mais, le truc, c'est que on voit qu'en fait, ils ont été un peu frustrés de jamais pouvoir faire une suite à VP2, même parce que Covenant of the Plume, c'était pas vraiment une sur DS, c'était pas vraiment une suite à VP2. On sent qu'ils ont voulu continuer cet héritage, faire quelque chose qu'ils avaient envie de faire depuis longtemps. Et je pense, personnellement, après, on n'en sait rien, mais je pense qu'ils ont pas réussi à le faire avec Square Enix, qui s'était déjà engagé sur Star Ocean 5 avec eux. Donc du coup, ils sont allés chercher un autre éditeur avec un nouveau concept, mais qui sous couvert de un autre nom, donc Exist Archive.
Un nouveau concept.
Voilà, reprend en fait Valkyrie Profile. Et donc je trouvais ça intéressant à mentionner parce que c'est de la merde Valkyrie Profile. Donc...
Mais c'est méchant.
Non, mais
il est connu pour ça, Elincia. C'est un gros troller sur VP.
Non, c'est intéressant de faire revivre, c'est-à-dire, enfin, de faire revivre entre guillemets.
Ah bah c'est clairement un VP3.
Mais je suis d'accord, laissons les morts. Oui.
Un classique de l'RPS1, et donc je pense que beaucoup de monde va l'attendre. Et le truc, c'est que ça a surpris tout le monde. parce que tout le monde s'attendait à un projet mobile vu que l'autre équipe, en fait, Striace marche toujours avec deux équipes. Il y en a une qui est sur un gros projet et l'autre qui est plutôt sur un projet mobile ou portable. Et donc là, je pense que ça a impressionné tout le monde de voir que Exist Archive paraissait sur PS4 et PS Vita, sachant qu'ils avaient été rachetés par une compagnie mobile il y a pas longtemps. C'était assez surprenant et plutôt une bonne surprise pour les fans de Valkyrie Profile, je pense, qui vont bien aimer. Et voilà.
Exist Archive, moi j'en ai pas beaucoup entendu parler, à part bien entendu toutes les infos que tu nous as données, Initia. Mais pour Spike Chunsoft, j'ai été assez étonnée de voir qu'il bossait sur ce projet. Parce que Spike Chunsoft, bon, c'est le studio qui a fait Danganronpa, je les remercie grandement pour ce jeu. Mais toutes les phases qui considéraient être autre chose que du visual novel ou des phases d'enquête classiques, c'était assez brouillon. Clairement, c'était pas les parties les plus agréables du jeu. Donc, les voir travailler sur un projet de cette ampleur, ça me fait un tout petit peu peur.
Mais je pense que non, en fait, je pense qu'il y a pas à se méfier, parce que je pense que Spike Chunsoft va vraiment être qu'à l'édition. Qu'à l'édition, et que Triace va vraiment s'assurer de tout ce qui est côté programmation. Et je pense que de toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter déjà niveau battle system, ça va être sans doute impeccable. Niveau gameplay, tout bonnement. Et je sais pas si vous avez vu les artworks un petit peu, ou même les premiers screens.
La direction artistique. Plutôt joli,
elle,
ouais.
Ouais, la direction artistique a l'air impeccable, sauf pour la modélisation 3D des personnages, qui est un petit peu dégueulasse, faut pas se l'avouer. C'est
en mode chibi, c'est dommage
parce que le caractère design des personnages qu'on voit, tu sais, les portraits qu'on voit, donc
ils sont
plutôt sympas, ouais. Je trouve.
La musique est assez lambda aussi, c'est du Motoi Sakuraba, lambda.
Après, c'est du Sakuraba, quoi. C'est le mec qui est en mode random par définition depuis qu'il est né, donc.
Non, je ne peux pas te laisser dire ça.
Non, mais
au bout d'un moment, faut être contre toi, Initia. Là, c'est pas possible.
Non, mais Azura, il a jamais écouté Star Ocean 3, c'est tout.
Mais bien sûr que si.
Ni Baten Kaitos.
Eh ben, elle est magnifique. Bon, à part Poetic Dance, nous sommes d'accord, cette musique, c'est la musique du diable.
Non, mais c'est du Sakuraba, quoi. Enfin, bref.
Non.
Ça a l'air prometteur, mais je pensais qu'il ferait un projet d'une beaucoup moindre envergure, et c'est intéressant de voir qu'il se lance là-dedans. Par contre, est-ce que Spike Chunsoft va assurer niveau communication? Est-ce que ça aura la force de frappe d'un Square Enix? Ça reste à démontrer, je sais pas.
Alors
si
moi, je suis
aura...
pas persuadé, tu vois.
Ouais.
Ça dépend de beaucoup de choses. Parfois, ils ont de très bonnes idées. Je pense par exemple d'avoir demandé une adaptation animée de Danganronpa pour lancer la série a été la meilleure idée qu'ils aient eue depuis... Voilà. Franchement, le jeu s'est lancé grâce à ça. En Occident, il y en a beaucoup qui l'ont connu grâce à ça. Et ça a permis de lancer le jeu. Et tout le reste avec. Mais là, sinon en termes de communication strictement minimum au jeu, on les a pas connus non plus à la hauteur.
Bah non, d'autant que là ils sortent en ce moment Fushigi notre Chronicle au Japon et j'ai pas l'impression qu'il est énormément médiatisé.
Bah ça dépend, c'est ça, c'est triste à dire, mais ça dépend. Parfois ils ont des bonnes idées, parfois non.
Ouais, ça reste une petite boîte quand même, c'est pas.
Oui.
D'autant que ce jeu il me donne vraiment l'impression d'avoir été fait pour la Vita et après porté sur PS4, non?
Tu parles d'Exist Archive?
Ouais.
Ça n'a pas été précisé, donc je saurais pas te dire laquelle est la.
C'est l'impression que j'ai.
Mais c'est vrai que ça, pour un jeu portable, c'est juste parfait, ça.
Oui, clairement, c'est pas un jeu PS4 pour moi.
Oui, c'est pas vrai. Enfin, si on peut profiter vraiment des artworks en méga HD sur ta télé, ça, par contre, je pense que ça va être super kiffant. Mais c'est vrai que ça, en jeu portable, ça marche tout de suite. Par exemple, enfin, tu refais Valkyrie Profile, la version PSP, donc le remaster PSP, ça passe, ça passe nickel, quoi.
Ouais, enfin, c'est moche.
Mais bon, ça, c'est moche.
Mais
c'est
le concept,
moche.
C'est pas bien. Non, mais Valkyrie Profile, les nets étaient tout assez...
J'ai pas trouvé, moi.
Non, ça allait, franchement.
Enfin, assez... Oui, ça paraissait assez, parce que c'était étiré, en fait, en largeur.
Oui,
bah, à la base, le
format, oui, d'accord, ok. Oui. Mais forcément.
Et ils auraient presque dû laisser le jeu en 4 tiers. Mais c'est un autre débat. D'ailleurs, pour là, ce Exist Archive, ils ont annoncé quand même 40-50 heures de jeu, avec beaucoup de post-game.
Exact. Alors ouais, ça c'est les jeux Tri-Ace, c'est les jeux Tri-Ace.
Ah, les jeux Tri-Ace, ils aiment bien mettre quelques donjons optionnels bien compliqués.
Bah, t'as toujours la Seraphim Gate, en fait, dans les jeux Tri-Ace, c'est-à-dire le donjon post-game de ouf que tu peux pas faire si t'es pas niveau 99 de la vie avec 255 partout.
Avec un personnage issu d'autres jeux en boss final.
Voilà, exactement, avec le petit clin d'œil, toujours.
Après, étirer la durée de vie pour étirer la durée de vie, c'est pas non plus le bon plan. Faut juste que le jeu soit bien tout court. Et après, si t'as envie de mettre des trucs un peu bateaux, pour ceux qui veulent faire un boss qui est level 99, et ben ils le mettent après.
Non, mais après, ils s'adressent aux fans, de toute façon.
Voilà.
De toute façon, le Seraphim Gate, c'est toujours pareil. C'est toujours les durs de durs qui le font. Le reste s'arrête à la fin, quoi. Là, c'est une constante.
Tout à fait. Et un autre RPG dont on a entendu parler, là, un peu dans la même fournée. On va avoir le droit à un Odin Sphere remaster.
Ouais, mais on va passer vite dessus parce qu'il n'y a pas des masses à dire dessus, mais c'est vrai que c'est bizarre de le voir ressortir comme ça. Peut-être c'est donc le partenariat, on rappelle, c'est Vanillaware, donc le studio qui est à l'origine de Odin Sphere, avec Atlus.
Meilleur studio du monde, pardon.
De quoi, Atlus? Ah oui.
Ouais. Donc on va dire avec Atlus, le meilleur studio du monde, qui vont nous ramener donc Odin Sphere, qui vont nous faire un petit remaster. Aussi ils sont dans la mouvance remaster. On sait qu'il y aura une version HD du jeu original qui est paru sur PS2 qui sera adjointe au remaster. Donc ça va être intéressant de voir en fait comment ils vont remasteriser ça. Est-ce qu'ils vont pousser le vice jusqu'à, par exemple, ajouter un nouveau scénario, changer des bouts d'histoire ou des bouts de gameplay, parce que on voit mal l'utilité d'un remaster si on a déjà la version HD du jeu PS2 sur le disque en fait. Et je pense qu'il y aura plus d'infos à apparaître dans pas longtemps, mais c'est marrant ce revival de Vanillaware parce que on pensait qu'ils seraient toujours sur des projets un petit peu originaux comme ils avaient l'habitude de faire, mais là, ils sont mis un petit peu dans la tendance. Voilà.
Est-ce que c'est pas justement pour trouver les fonds et s'habituer aux nouvelles...
C'était possible parce que...
aux nouvelles machines.
Il disait dans un reportage donc, qui était paru dans Games, il disait justement que leur façon en fait, de faire des arts, quand elle était adaptée au jeu HD, par rapport au jeu PS2, ça leur prenait quelque chose comme 10 ou 20 fois plus de temps et que c'était un gouffre financier en fait. Donc c'est possible qu'ils soient heurtés à un mur qui est inhérent en fait à leur façon de faire des jeux, à leur façon de designer, de créer leurs jeux graphiquement. Et donc c'est possible qu'ils soient en quête de quelques fonds par-ci par-là. Et après bon c'est pas moche, je pense c'est pas mauvais parce que le jeu est assez vieux, ça permet à une nouvelle génération de le faire parce que moi je l'ai pas fait mais apparemment le jeu jouait plutôt d'une bonne réputation. Donc pourquoi pas. Moi je suis jamais par principe contre les remasters si ça peut permettre à d'autres personnes de les redécouvrir.
Bah moi j'ai fait le Odin Sphere à l'époque.
C'est
ce qui m'a fait découvrir Vanillaware. J'ai beaucoup aimé, mais après j'ai beaucoup aimé Gwendoline. C'est ça le problème. Dans le Odin Sphere, t'avais plusieurs personnages. C'est un petit peu aussi le problème de Muramasa. T'as deux personnages, mais bon, autant par exemple le personnage de la princesse était fun dans Muramasa. Bah c'est un peu pareil dans Odin Sphere, c'est le même problème. Gwendoline est très sympa, Velvet aussi. Après la fée, le prince, si Oswald est sympathique, le chevalier noir, mais disons qu'une fois que t'as vu le scénario, après c'est pareil, il faut le refaire une deuxième fois.
C'est ça, c'est toujours le petit problème.
Ouais, c'est un peu redondant.
Voilà, je pense pas que, à moins qu'il fasse vraiment un gros travail et qu'il modifie des pans du jeu de l'époque, il y aura pas moyen de le remettre assez au goût du jour. Peut-être qu'il paraîtra trop archaïque, trop ancien, je ne sais pas. J'attends de voir ce qu'ils nous proposent, hein, étant donné que c'est un remaster. Mais Muramasa, ils n'ont pas fait non plus des masses, donc je pense que ça sera surtout une remise aux normes. Un peu comme ce qu'ils ont pu faire avant. J'en attends pas grand-chose.
D'accord, toi tu restes un peu dubitative, vu
mais
la version
bon
PS2.
Jeu.
Ah bah, je vais pas te dire le contraire. Non, je l'ai pas fini, donc je m'avancerai pas là-dessus. Là, je me dis justement que c'est peut-être l'occasion de m'y plonger, cette version remaster, si elle rend bien sur les dernières consoles.
J'aimerais bien qu'ils remettent les petites bulles un petit peu comme ce qu'ils ont eu au Japon, parce que chez nous, on a juste eu un Bordeaux en dessous, si je me souviens bien. Ils ont supprimé les petites bulles qui faisaient style BD.
Ah oui?
Oui, si je me souviens bien, ils avaient supprimé ça.
Mais t'as pas signé une pétition contre?
Oh bah oui.
Allez, une petite pétition sur change.org, là.
C'est ça.
Parce que bon, c'est un peu... C'est quand même...
C'est scandaleux.
C'est un peu scandaleux. Hein,
ouais,
de toute façon,
mais
tout
non.
est scandaleux maintenant. Hein.
Étant donné que vu qu'ils le refont, ils peuvent peut-être faire ça...
Bon, je pense qu'on a on a fait le tour sur notre actu. En tout cas, c'était les trois sujets qu'on voulait mettre en avant. Je vous propose une petite pause musicale et puis et après on reprend sur nos RPG du moment et les sorties qu'on attend.
Enfin, pause musicale, ouais, musclée quand même. Je ne l'ai pas choisi.
Eh bien, soit. Alors, nous allons mettre Mechanical Rhythm de Xenoblade Chronicles. À tout de suite.
À tout.
Voilà de retour après cette petite pause musicale bien énergique pour parler dans cette seconde partie de nos RPG du moment. Donc là, on va parler de concret. Ce sont les RPG qui tournent dans nos consoles et PC. Mmh. Et là, encore une fois, je vais laisser la parole à Azura qui va nous parler de son grand RPG du moment.
Alors, grand, je pense que tu vois les choses un peu trop grandes.
C'est juste pour annoncer le troll, c'est tout.
On va juste parler de Trail in the Sky. Donc, Trail in the Sky, c'est le jeu de Famicom qui est découpé en trois chapitres, dont le troisième qui ne parviendra jusqu'à chez nous que par miracle, si le second se vend bien, sachant qu'on a le premier depuis quelques années, et que le second on l'attend parce que, bah, sinon c'est un peu problématique quand on fait un jeu en trois parties et qu'on n'a pas tous les chapitres.
Mais
ils ont dit que le troisième, c'était pas forcément nécessaire. Alors pourquoi il existe? Mais c'est pas grave. On va laisser ça de ce côté et on retourne sur Trail in the Sky, premier chapitre. Donc, l'histoire de Trail in the Sky. Vous prenez le RPG le plus classique au monde et vous le réadaptez un peu. C'est un petit peu la recette de Trail in the Sky, en fait. Vous incarnez donc deux amis d'enfance, en tout cas qui ont grandi ensemble, même s'ils n'ont aucun lien de parenté, qu'il y en a un qui a été récupéré un peu à la louche par le père de la dernière.
Ah bon, c'est l'armée RPG, oui. Jap, là.
Voilà, donc j'espère que je vous donne envie avec ce début de scénario. C'est quand même fabuleux. Et donc, ben, ils vont grandir, ils veulent devenir ce qui est grosso modo la milice de la ville, hein, la milice gentille de la ville, celle qui défend la veuve et l'orphelin. En gros, dès qu'il y a des monstres qui vont dans ton verger, ben, on va les tuer, voilà. C'est tout mignon, c'est plein de...
De bons sentiments.
Bons sentiments, c'est ce que je voulais dire.
C'est la milice Monsanto, en fait.
Si tu veux, quand tu viens de sortir de Danganronpa, parler de Train the Sky, c'est un petit peu passé du grand écart, mais c'est pas grave.
Oui.
Parce que bah, tout est mignon, le car design est mignon, on est dans du classique de JRPG, du classique de ce que nous fait Falcom. Tout est classique, les musiques sont classiques. Voilà, c'est triste à dire, mais en fait, j'arrive pas à être emballée par ce jeu, parce que tout est trop classique. En fait, si, au bout d'un moment dans le scénario, on commence à être un peu happé, comme dans tous les JRPG, mais lorsqu'on peut pardonner, par exemple, 10 heures d'écart au début, là, faut quand même en attendre au moins 30 avant d'être dedans.
Ah, c'est un peu
problématique. Donc, il faut être honnête. Alors, ce n'est pas le RPG catastrophe, c'est juste un bon petit RPG classique. C'est le RPG que vous ouvrez parce que vous n'avez rien d'autre à côté.
Non, mais ça... non. Mais je suis pas d'accord sur le fait que c'est pas une catastrophe, parce que si, c'est une catastrophe, enfin.
Mais.
Je veux dire, c'est... en fait, c'est un jeu qui dure 40 heures, pour expliquer vite fait, c'est un jeu qui dure 40 heures, et, chaque dialogue avec des NPC, chaque dialogue avec, avec des personnages secondaires, etc., c'est une purge, mais genre une purge, atroce. C'est l'enfer fois 10, quoi. Dante à côté, c'est rien.
Mais pourquoi? Parce que c'est lent, parce que les.
C'est lambda! C'est lambda!
Non, non, c'est lent, c'est lourd, et c'est, ça fait mal. Ça, franchement, ça fait mal, les dialogues.
Oh,
c'est
ça juste fait mal.
Mais oui,
tu peux pas
lié.
Les accélérer.
Non, mais c'est, ah non, 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 justement, non, attention, on accélère pas. On peut accélérer les combats, mais on accélère pas les dialogues. Donc, on se prend toutes les deux secondes des dialogues lourds, niais, pleins de bons sentiments, dégueulasses, qui nous font chier pendant 35 heures de suite. Mais... Et puis, au bout d'un moment, on hésite à péter la console en deux parce qu'on se dit, bon, putain, vas-y, au bout d'un moment, faut que je proteste, quoi, faut que je dise un truc. Et non, et, du coup, on arrive à la fin, et en effet, c'est vrai, les 5 dernières heures, en fait, sont juste pour amorcer l'épisode 2, qui a l'air, lui, intéressant, mais qu'on n'a jamais pu jouer de notre vie. Donc, c'est super, c'est génial, tu fais un prologue qui dure 40 heures, en fait, et tu commences à péter un plomb très très vite, parce que même le gameplay, c'est tellement classique, mais ça fait chier, t'as aucune audace, aucune idée dans ce jeu, en fait.
Alors attends, on va peut-être expliquer un petit peu le gameplay, parce que, voilà, à part le scénario bateau qui, après, vous amènera à traverser tout le pays pour récupérer... des éléments pour compléter votre badge de milice et également retrouver le père qui...
Le fameux père qui
voilà.
En vadrouille.
Le père que l'on ne retrouve pas comme d'habitude. Enfin,
voilà, bien sûr.
Les parents disparus du JRPG, bonjour. Mais sinon...
Ouais,
ah bah de toute façon, c'est soit on les perd, soit ils sont dès le départ...
Crevés.
Non, non, justement, ils t'encouragent à partir à l'aventure. Alors que tu es présent, mais ils
et
te donnent un tuto pour
que tu
pars.
Et quand tu reviens dans ton village, ils sont morts parce qu'il y a eu un feu dans ton village. En général.
Ah, il y a ça aussi, ouais.
Ou une catastrophe naturelle annexe, choisissez.
Voilà,
donc...
c'est ça.
Mais bon, alors gameplay, on a un quadrillage. On se déplace en quadrillage. On a un nombre de points de déplacement. Enfin, c'est du classique. Parfois, on a une arme qui nous permet d'avoir une zone plus large d'attaque. Sinon, c'est du corps à corps. On a aussi l'utilisation de la magie avec d'autres zones prédéfinies, avec l'utilisation de points de magie, que du classique. Et vous avez l'attaque finale qui se déclenche que lorsque vous avez emmagasiné un certain nombre de points, que vous emmagasinez à chaque attaque, à chaque coup reçu, que du classique si vous jouez au JRPG depuis au moins ces 10 dernières années.
Ah mais attends, tu parlais...
Le jeu est sorti depuis longtemps au Japon, si on a oublié de préciser ça.
Très longtemps, ouais.
Voilà, et nous, on le reçoit assez tardivement, donc... On est un peu dur avec. Peut-être qu'à l'époque, c'était plus intéressant. Même très certainement, c'était plus intéressant. Et eux, ils ont lu tous les chapitres assez rapidement, ce qui n'est pas le cas pour nous. Nous, ça fait quand même déjà environ 2 ans d'écart entre 2 chapitres, ce qui est un tout petit peu problématique. Et surtout, il ne sort que sur PC chez nous, et nous n'avons pas eu sur PSP.
Et faut rappeler vite fait quand même.
Comment
que,
ça, on l'a pas eu sur PSP.
On l'a eu. Non, il est sorti qu'en Europe, qu'en Amérique, pardon.
C'est ça. Mais sinon, nous, en tout cas, moi, je me considère en Europe.
En Europe,
donc...
on l'a pas eu sur PSP. Et juste pour rappeler quand même vite fait, parce que ça, en fait, c'est pas inhérent à cet épisode-là, c'est inhérent, comment dire, à la tradition Falcom des The Legend of Heroes, en fait. C'est une série très très longue, qu'ils ont commencé il y a très longtemps. en fait, c'est...
Mais si, on l'a eu sur PSP.
C'est leur façon de faire des jeux narratifs, des RPG narratifs, contrairement aux IS qui sont très action avec très peu de blabla. Donc, The Legend of Heroes, c'est toujours ça. C'est plein de blabla, plein de bons sentiments, plein de trucs niaiseux qui s'adressent souvent aux adolescents. Et donc, du coup, on a cet épisode Trails in the Sky qui est un petit peu plus médiatisé parce qu'il est sorti aussi en Amérique, en Occident, voilà. Et beaucoup de... Comment dire, de connaisseurs du RPG l'ont un peu déclaré comme un jeu énorme, super, c'était la perte de la PSP. Sauf que, voilà, il n'y a juste aucune audace et je trouve ça très dommage de la part de Fallout.
Et alors, moi, je voulais juste revenir sur le fait qu'il est bien sorti chez nous, hein.
Il est sorti en Europe?
Ben oui, il est sorti. Ben moi, j'ai une version européenne, c'est pour ça que j'ai marqué un temps d'âge.
Ah bon? Attends.
Ah oui, ben oui, il est sorti en US, moi.
Alors, il a mis un moment avant de sortir, mais il est sorti en Europe, en boîte. Qui plus est. Alors, moi, je l'ai
pas
encore lancé, je me l'ai
cache. Voilà.
Quoi?
C'est parce que tu pirates pas tes jeux, nous on pirate. Dès que c'est aux US, on pirate.
Ah ben non,
et donc, oui, c'est en 2006 qu'il est sorti au Japon. Pour
c'est 2011 chez nous.
Voilà.
2011.
Quand même 5 ans. Je voulais juste revenir sur un truc.
Ça va, une petite attente, quoi.
Je suis novice là-dessus. Tu parlais de Cadria tout à l'heure, Azora. Mais du coup, c'est du JRPG ou du tactical RPG?
C'est du JRPG.
Est-ce que tu t'appelles Azura? Voilà, on en discute. Est-ce que tu t'appelles Azura, Elinzi?
Je me fais bâcher la gueule, moi. Ok, d'accord.
C'était toi le méchant dans la première partie, donc maintenant
d'accord,
c'est mon tour.
Je te laisse la parole.
Merci. Je veux casser ce quadrillage. Donc oui, non, on est sur du... Un cross de tactique, en gros t'as cet aspect tactique pour le combat, mais c'est pas vraiment du tactique parce que c'est pas assez complexe pour en être. C'est vraiment parce que bah ils pouvaient pas faire du déplacement en temps réel comme ce qu'ils font maintenant avec le comment il s'appelle le dernier, Senno Kiseki, qui lui par contre n'a plus de quadrillage. C'était vraiment un aléa technique, donc ils utilisaient le quadrillage qui est traditionnel quand on ne peut pas utiliser le déplacement en temps réel pour utiliser des limitations de déplacement. Et surtout des zones pour les armes, sans que ça tue la console.
Mmh. Alors, donc en fait, c'est des combats aléatoires.
Et quand ça
commence.
Aléatoire? Non, c'est pas aléatoire. Tu les croises, les ennemis, tu leur rends
dedans. Ah oui, non, oui, d'accord.
Tu peux les éviter.
Non, mais je veux dire, c'est oui, oui, non. Mais
donc, tu rencontres un ennemi, hop, tu arrives sur le champ de bataille, et après tu déplaces
c'est
tes
ça.
Persos.
C'est ça.
D'accord, comme un gros. Comme les Gros Lancers 1, par exemple. Non?
Oui, c'est un stratégie RPG en fait.
D'accord.
Enfin, stratégie de base.
Non, mais en fait, il y a une différence entre le tactical et le stratégie, en fait. Tactical, c'est quand t'as vraiment 20 mecs qui font une armée. Le stratégie RPG, c'est genre 2-3 gars qui sont paumés sur une map en quadrillage, quoi.
Ouais, mais là, t'es quand même sur du gros basique. Hein. Voilà.
Ah oui, non, on est d'accord.
Voilà, on est d'accord.
On est d'accord.
C'est
ça
un jeu de base.
Oui.
C'est-à-dire qu'on aimerait dire que c'est bien parce que bah c'est du fait quand même, on aime bien la société, ils font du bon taf en général, surtout sur le scène de Kiseki qui a l'air d'être démentiel, qui va bientôt sortir normalement.
Ah mais là qui est JRPG classique là.
Ah mais là c'est vraiment du JRPG classique. Si les gens veulent faire le JRPG classique, ils peuvent faire celui-là. Et encore peut-être qu'il y a un peu mieux. Je conseillerais par exemple le Fire Emblem Awakening qui pourrait...
Ah non, mais tu putes taille les veines pendant les dialogues. Franchement, ceux qui ont des tendances suicidaires, faites pas très bien, s'il vous plaît, non.
Non, mais ils sont tout mignons, les dialogues. Tu peux pas te suicider,
c'est
tellement de mignons de titus.
Ils sont lourds. Ils sont lourds. Ils doivent mettre 1000 mots pour arriver à un truc qui se résume en 10 mots. C'est un truc de fou, quoi.
Est-ce que ça te choque dans le JRPG?
Ah non, mais c'est un extrême quand même. C'est un sacré extrême. Faut pas déconner, quoi. Vraiment.
Azura, tu vas être déçu parce que Senno Kiseki, moi je l'ai lancé vite fait parce qu'en fait il était gratuit sur le PlayStation Plus il y a pas longtemps. Du coup je l'ai pris, je l'ai testé
Jap.
Vite fait, Jap.
Oui.
Et plutôt agréable, mais il me semble bien que sur archaic.fr, Ryuzaki l'a fini. Et lui il a fait le 1 et 2. Sont déjà disponibles au Japon. Et il reprochait justement au 1, c'est pour ça que je fais le parallèle avec Trails in the Sky, d'être très 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 lent à démarrer, que c'était nul pendant une grande partie de l'aventure.
Ah oui.
Et que ça devenait bien que sur vraiment tout, juste la fin, quoi.
Bah c'est du Legend of Heroes.
Et oui, bah, je n'ai pas le même
beaucoup.
Retour.
Bien
je n'ai pas
chez
le
Paul
même
Colm.
Retour. Quelqu'un m'a dit qu'il était très bien, donc voilà, c'est quelqu'un
en qui
j'ai confiance.
Peut-être la différence, c'est qu'il y en a un qui comprend le jap et pas l'autre.
Oh,
oh là là.
Non, elle traduit les dialogues, en plus cette personne. Je ne permets pas de critiquer mes amis, s'il vous plaît, monsieur.
On s'en fiche tant que tu balances pas.
Ah, non, je balancerai pas. Mais en tout cas, bah, j'attends de le faire et puis je me ferai mon avis. Mais pour celui que j'ai fait, Trail in the Sky Chapter 1, c'était assez.
Après, maintenant, tu l'as fait, il y a le 2 qui arrive, t'es prête.
Et puis par exemple, bah, malheureusement pour Train in the Sky, à côté il y a Fire Emblem Fate que j'ai pu toucher, j'ai volé une 3DS à quelqu'un, tout va bien dans mon monde. Hein.
Donc version japonaise.
Et c'est de la drogue. Voilà, c'est de la drogue ce Fire Emblem. On en parlait, enfin j'en parlais avec distance pour ne pas spoiler cette partie du podcast, mais. On commence et on n'a plus envie d'arrêter, c'est triste. Enfin, même la personnalisation. Maintenant, tu peux mettre une barrette dans tes cheveux, c'est fabuleux. Non, bon.
Parlons de Future Killer, quoi.
Ah, bah là, elle nous le vend, le jeu.
Parlons des vraies choses. Non, mais on retrouve tout ce qui a été abordé dans le Awakening. En gros, c'est un Awakening plus. Et puis, bon, je ne vais pas spoiler, mais il y a un truc qui fait que le personnage principal est terriblement intéressant. Enfin. Pour ceux qui n'ont pas deviné, regardez le physique du personnage My Unit, regardez le fait qu'il n'ait pas de chaussures, et vous comprendrez. Non mais voilà, moi j'ai été à un stade avancé lorsque j'attendais le Fire Emblem If, je ne veux pas de commentaires. Et donc, le jeu ne déçoit pas. Franchement, foncez.
Ça marche.
Pour ceux qui peuvent.
Bah oui, parce qu'actuellement, japonais...
Tout le monde ne parle pas Jap.
Et tout le monde n'a pas de console Jap, c'est vrai.
Après, ceux qui veulent se renseigner pourront se renseigner.
Ah, on n'en dira pas plus.
Serena
Forest. On n'en dira pas plus.
Qui est un super site pour tous les fans de Fire Emblem. Ah non, mais c'est un site de fans.
Mais oui, en effet, certains peuvent avoir passer par des moyens détournés pour avoir une version compréhensible. Bref.
C'est toi qui as développé ce sujet.
Elincia, toi, à quoi tu
joues? Oui, c'est moi.
Qu'est-ce que tu fais en ce moment?
Alors, moi, je joue à Terraria avec mes potes. Alors, pour Terraria, comment dire, pour expliquer aux non-initiés, vous voyez Minecraft? C'est Minecraft en 2D, mais en beaucoup plus intéressant parce que c'est beaucoup plus sophistiqué, au niveau des boss, de l'action RPG. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élaboré que Minecraft, qui est beaucoup plus entraînant, en fait. Par contre, c'est un jeu qui se fait à plusieurs.
C'est clair.
Il faut pas y jouer tout seul. C'est quelque chose que t'achètes sur Steam, que
tu
t'invites 2-3 potes. Tu l'achètes, alors si tu prends, parce que moi j'ai pris le pack 4 copies pour jouer avec mes potes et c'était 25€ je crois, donc que dalle quoi.
Ah oui, c'est pas grand-chose pour 4.
Ah, oui. Souvent Humble Bundle aussi, hein.
En plus, ouais, donc c'est vraiment que dalle quoi. Tu files une clé à tes potes et t'es parti quoi.
Ah, alors je vérifie si je l'ai pas dans un.
Pourquoi j'en parle? Parce que Terraria c'est quand même assez vieux, c'est sorti avant Minecraft, je crois que c'est 2009 ou 2008. Et en fait, ils ont sorti un gros patch en fait fin juin là. Ils ont sorti un patch qui s'appelle la 1.3. Et donc ils ont rajouté environ 800 objets, des dizaines de boss en plus. Et en fait, tout simplement, Terraria c'est juste du fun en barre quoi. C'est t'as la construction, t'as le minage, t'as les boss picks à faire à 4 avec du stuff que tu prends beaucoup de plaisir à upgrader. C'est-à-dire que t'es toujours en train de faire du craft pour aller vers le meilleur objet, le meilleur truc machin, la meilleure magie. Et c'est juste cette montée en puissance, c'est tellement bien organisé dans le jeu que quand tu fais ça à plusieurs, tu t'entraides, tu te mets un objectif à chacun. Genre toi tu prends magicien, moi je prends tireur. Vas-y, tu vas prendre le meilleur gun, moi je vais prendre la meilleure magie, etc. Et t'arrives donc du coup une fois que t'as ton stuff bien équipé, tu vas tabasser les boss et ça donne des combats vraiment super épiques. Terraria c'est vraiment le truc sur le long terme. Par exemple, bon, c'est une expérience qui dure assez longtemps. C'est-à-dire avec la 1.3 en plus, le jeu doit durer même à 4. Tu le fais en 30-35 heures quand même.
D'accord.
C'est impossible. Enfin, combat épique dans Terraria, je suis assez sceptique.
Si. Mais parce que tu m'as dit que t'avais fait que le début. Tu m'as dit que t'avais fait que le début.
J'ai joué 5h, 10h en solo.
Bah, c'est rien. C'est tellement rien. T'as rien à voir, en fait. Le jeu est découpé en 3 phases. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le premier mode. Donc, le mode dans lequel tu devais être. Et ensuite, une fois que tu bats un certain boss, le jeu se modifie de façon à arriver dans le hard mode. Donc, c'est-à-dire que c'est là où tu vas avoir les plus gros challenges. Et donc même après ça, donc du coup avec la 1.3, ils ont rajouté un truc en plus du hard mode. C'est comme une extension, comme un gros DLC qui est gratuit par contre. Je veux dire, c'est totalement gratuit. Steam met à jour le jeu, c'est gratuit pour ceux qui ont acheté le jeu. Et donc du coup, au-dessus du hard mode, ils rajoutent encore les Lunar Events. C'est-à-dire un truc de gros dingue où il faut vraiment avoir du stuff de dingue pour arriver à tuer des boss, mais c'est super jouissif et c'est super dynamique Terraria parce qu'il y a toujours des événements aléatoires qui se présentent aux joueurs, qui les sortent un petit peu de leur quotidien, qui les obligent à s'adapter à l'univers en fait. Donc du coup c'est vraiment parfait à jouer avec des potes, tu tapes des barres, tu meurs comme un con mais c'est pas grave, tu t'en déconnes avec tes amis et voilà. Moi je recommande à tous ceux qui sont en coloc par exemple, faites ça avec vos potes, ça dure 35 heures sur un mois, sur un bon mois de séance le soir, vous le finissez et c'est juste des barres de rire garanties quoi.
Et en fait, pour moi, ça serait...
Ah pardon, excuse-moi.
Ça serait... Vas-y. Les mêmes barres de rire que j'ai eues sur Minecraft concrètement. En fait, c'est le fait que tu sois plusieurs,
c'est similaire,
que c'est
similaire. Oui, tout à fait, mais t'as beaucoup de jeux qui sont en multi, qui sont pas forcément drôles dans leur mécanique, qui peuvent être agaçants. Par exemple, si t'as un jeu très punitif, t'as beau être 4, au bout d'un moment, ça va te faire chier et tout le monde va quitter. Tu vois ce que je veux dire?
Tu parles de Spelunky? Non.
Oh le tact. Oh le vilain tact. mais dans l'idée, oui, Spelunky, dans l'idée, si tu veux, on peut aller sur ce terrain-là, mais des jeux qui sont bien designés, et qui ont un bon multiplayer, ils vont te faire rire, ils vont te faire te déconner avec tes potes, mais si t'as un jeu qui est un peu bancal, tu vas vite le quitter après 2-3 heures de jeu, que tu sois à 3 ou que tu sois à 10, hein, c'est pareil. Donc la Terraria, c'est vraiment une expérience très bien designée, très bien calibrée, c'est du fun, voilà, tout simplement.
Alors moi, ma question, c'était, est-ce que ça peut se faire en solo? Alors tu dis qu'il valait mieux le faire avec d'autres.
Ça peut se faire en solo. Alors déjà, il y a deux inconvénients. Le faire en solo, c'est très laborieux pour monter, parce qu'en fait, le cœur de Terraria, enfin un des cœurs de Terraria, c'est de miner en fait. Donc c'est-à-dire que en dessous de la surface du sol où tu débutes, t'as un gigantesque underworld où tu vas donc creuser, comme dans Minecraft, voilà, pour récupérer des éléments, des matériaux, etc. Et si t'es tout seul, en fait, c'est très laborieux de récupérer assez de bons matériaux et de matériaux assez divers pour se faire des bons stuff, etc. Alors que t'es à 4, tu commences à diversifier un petit peu ton expérience, tout ça. Et le deuxième inconvénient, c'est que quand t'es tout seul, tu te fais chier tout simplement parce que, mine de rien, tu sens beaucoup plus la répétition, en fait, des mécaniques quand t'es tout seul. Alors que quand t'es à 4, tu peux assigner des rôles, en fait, à chaque personnage. Par exemple, tu te dis que, genre, ton pote, il va se mettre, par exemple, joueur à distance. Donc, c'est-à-dire qu'il va canarder les mobs de très loin. Et pendant que t'en as un deuxième, par exemple, qui sera plus spécialisé dans la construction ou dans le minage, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire, comment dire, comme le dirait Durkheim, la division du travail, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je vois.
C'est-à-dire, voilà. Et donc, du coup, quand t'es tout seul, en fait, t'es obligé de cumuler ces rôles. Et c'est un petit peu chiant parce que tu te retrouves à faire beaucoup de fois la même chose. Et c'est intéressant tout simplement. Moi, je recommande pas du tout de faire le jeu tout seul. C'est pas du tout satisfaisant.
Et moi qui suis pas joueur PC, il y a une version qui est sortie sur PS4 en début d'année. C'est laquelle?
Tout à fait. Alors, donc Terraria est sorti sur beaucoup de plateformes. Il est sorti sur mobile, il est sorti sur console, il est sorti sur donc console, j'inclus PS4, Vita, etc.
Ouais.
Et je préconiserais plutôt de le faire sur PC parce que la maniabilité de base en fait est vraiment conçue pour un jeu PC, parce qu'en fait pour miner c'est tout con mais c'est important. Pour miner en fait c'est mieux d'avoir la souris pour cliquer exactement où on veut, parce que c'est plus confus en fait avec le joystick. C'est beaucoup moins précis. C'est-à-dire, par exemple, même Minecraft, je sais pas si vous avez joué, si vous avez tenté la version PC par rapport aux versions consoles, c'est un peu plus galère les versions consoles parce que c'est moins malléable, c'est moins personnalisable.
Mmh. Dans les menus, peut-être.
Les menus, toute l'expérience, en fait, est faite sur le PC, et c'est toujours le problème du portage PC tout console, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et tu perds toujours dans le process.
C'est clair, on est beaucoup sur du, on va pas dire point and click, mais en tout cas le menu, t'es toujours obligé avec ta souris d'y revenir.
Si, c'est un peu du point and click, hein, on peut le dire quand même, mais après ça reste de l'action, hein. C'est quand même un jeu d'action et de build et de minage, mais la mécanique de base, c'est vraiment du point and click, quoi, si on peut dire ça comme ça.
Quoi, c'est avec des gros RPG skills.
Mais si, c'est un RPG, hein. c'est tout à fait un RPG. Bon,
c'est le gameplay qui exploite la souris.
C'est ça, le gameplay exploite ton skill à la souris.
D'accord. Non, amusant. Exactement. Parce que moi j'avais juste vu des screens pour la version PS4. C'est là où je m'y suis intéressé parce que en fait je regardais pas du tout la version, enfin sur Steam je regardais assez peu. Et la version PS4 était en boîte. Je me suis dit tiens, c'est un petit jeu qui a l'air sympa. Mais...
Prends tes amis d'archaïque et fais tes arrières.
Tu vas me prendre comme ami aussi, parce que je suis un peu sale.
Ah oui, mais sur Steam, du coup.
Mais oui, je suis sur Steam.
Eh ben peut-être. Entre deux RPG. Non, parce que quand même, j'enchaîne pas mal, mais... Non, mais ça m'a donné envie, tu vois. C'était pas du tout un jeu qui me bottait plus que ça. Et je me dis, bah pourquoi pas.
Bah, je suis très sceptique, moi, tu vois, à côté. Donc pour moi, Terraria, bon, bah c'est... Malheureusement, en solo, c'est quand même bien l'ennui assez rapidement.
Oui, non, mais ça, je
mais voilà, c'est le côté fun, c'est le côté fun du multi, forcément, bah, quand t'es avec tes potes, il y en a toujours un qui fait une petite crasse à un autre. C'est d'ailleurs le côté drôle d'être en multijoueur, on est d'accord?
En fait, c'est du MMO, mais sans les quêtes rébarbatives du MMO, en fait. C'est vraiment toi qui te fixes tes objectifs, t'es avec ta bande de potes, et tu fais ce que tu veux, quoi.
Tu t'amuses un peu, puis bon, bah, il y a des moments où il faut être sérieux, bah là, tout le monde se donne à fond pour battre.
C'est ça.
Des monstres. Voilà. Et là, quand tu le vins, bah, c'est le moment absolu où tout le monde est content.
En plus, c'est très généreux sur le loot Terraria, donc t'as toujours la récompense, t'as toujours la carotte, en fait, si tu veux, ou tu fais jamais un truc en vain. T'as toujours le petit truc à la fin qui te fait, ah, j'ai pas fait ça pour rien, etc. Donc, t'y retournes très, très fréquemment.
Non, mais il y a une fin quand même.
Oui, il y a un boss.
Tu disais que ça se finissait en 35 heures.
Il y a un boss final, si tu veux, mais après, les possibilités en dehors, du cheminement normal, donc qui t'amène à buter le boss final, sont très nombreuses. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux crafter toutes les meilleures armes du jeu, ça, il faudra que t'ailles après le boss final. Si tu veux, tu peux construire la plus grande maison qui existe sur Terre, faudra que t'ailles après le boss final, tu vois ce genre de délire. Ouais, c'est très malléable comme expérience, en fait.
D'accord.
Voilà.
Eh ben, je tenterai à l'occasion. Me donner envie.
Eh ben, tu viendras avec moi, je t'initierai.
C'est gentil.
Tant de tristesse, je suis abandonnée à mon triste
sort. Mais toi aussi, si tu veux, Azora, toi aussi.
Ah ouais, ça fait déjà trois personnes.
Eh ben, non. Voilà.
Là, moi, pour le moment, je finis Bravely Second déjà, ça sera déjà pas mal.
Ah ben, vas-y, raconte-nous un peu, parce que ça, on n'a pas entendu beaucoup parler.
Ouais, puis moi, je suis très sceptique.
Ah ben, tu peux être sceptique. Bravely Second commence exactement après la fin de... Bravely Default, enfin exactement, 2 ans et demi après, mais même monde, même personnage. Donc je vais pas trop aborder l'histoire, sinon ça va grave spoiler. Mmh. Enfin, de toute façon, le jeu spoil, hein. Dès qu'on lance Bravely Second, on a juste passé, je crois qu'on passe le logo de Silicon Studio, on fait New Game, et paf, on se prend toute l'histoire de Bravely Default. Donc déjà, si on n'a pas fait Bravely Default avant, ouch. Alors sauf si après on n'a pas envie de le faire. Hein, donc,
Bah oui, c'est quand même bien de rappeler les bases pour ceux qui enchaînent direct avec le jeu. Sinon, bah,
après,
t'as pas ce qu'il faut.
Être... Ouais. Si c'est de toute façon pour comprendre Bravely Second, il faut connaître l'histoire de Bravely Default.
Donc voilà, c'est un bon point plutôt qu'un mauvais point.
Tout à fait. Globalement, on retrouve Agnès Oblige. Qui est devenu pour marquer sa condition où dans le Bravely Default elle est obligée de ranimer les cristaux parce que c'est sa religion, etc. Donc là on la retrouve en tant que grande papesse, donc là ceux qui feront le jeu verront pourquoi, et elle se fait enlever dès le départ par l'empereur Oblivion.
Par l'état islamique.
non, mais l'empereur Oblivion qui est masqué.
Non, mais c'est un peu le cliché de base du JRPG. Ouais.
Tout à fait, c'est un gros cliché. Et on part à sa poursuite. Et cette fois, on ne dirige plus Tease comme dans le précédent. On dirige Yu. Donc un nom assez finalement assez asiatique.
Yu.
Non mais non.
Zeneo Russia.
C'était pas Magnolia Mephest là?
Mais non. On dirige Yu et qui est en fait qui fait partie de la garde rapprochée d'Agnès avec deux autres mousquetaires, Jean en garde et et Nicolas Nikov.
Oh là.
Et ils prennent des inspirations un peu partout. Et en fait, ils nous avaient fait pas mal de trailers Square là-dessus, comme quoi on allait avoir trois mousquetaires, etc. Il y avait une petite ambiance.
Ouais.
Bon, après 3 heures de jeu, je ne spoilerai pas, mais cette ambiance mousquetaire disparaît totalement. Uh-huh. Et on retrouve les personnages du 1, donc Edea et Tease, qui reviennent. Uh-huh. Dans l'équipe. Bon, on s'en doutait un petit peu, la jaquette, c'est Tease en gros dessus. Hein.
Okay, d'accord, ok.
Et on rencontre Magnolia, comme prononcent les Japonais, qui vient de la Lune. Et donc déjà, on se dit, tiens, il y a un peuple sur la Lune, etc. Mm-hmm. Qui parle une autre langue. Et ce qui est amusant dans la version japonaise, c'est que Magnolia parle en anglais. Pour marquer qu'elle vient de la Lune, pour bien signifier ça, ils n'ont pas créé un nouveau langage, etc.
C'est pas intéressant.
Ils la font parler en anglais. Donc ce qui est donc c'est amusant de quand elle dialogue avec la base d'où elle vient, parce qu'on sent qu'il y a un petit côté militaire. Elle parle entièrement en anglais et elle demande à se faire appeler Magnolia.
D'accord.
Comme quoi, ça serait peut-être pas son nom d'origine. Bref, j'irai pas plus loin. Ce nouveau quatuor qui se forme très vite dans le jeu part à la recherche de Agnès. Dans le même monde que Bravely Default. C'est ça le problème. C'est logique,
c'est
parce que ça se passe dans le même monde et que ça se passe 2 ans et demi après. Mais résultat, on retrouve les mêmes villages, les mêmes villes.
Non.
Quelques inédits.
Ils ont osé faire ça.
Mais on en retrouve
pas
mal.
C'est moche.
Ah, on commence dans le royaume d'Eternia. Autant vous dire que première ville qu'on visite, c'est Eternia. On retrouve le cimetière qui est à côté, où il se passe d'ailleurs pas mal de choses. On va retrouver les différentes villes. Je sais plus comment elles s'appellent.
Ils ont rentabilisé les assets graphiques.
Ouais, c'est ça, ils ont repompé à mort. Hein,
et ce sont les mêmes endroits. On retrouve même certains donjons également qu'on doit reparcourir.
Oh là là, non.
C'est
l'ersatz, là.
L'ambiance graphique.
On croirait Tales of Symphonia le
change.
Ah ouais, on dirait ça un peu, ouais.
Mais voilà, on retrouve pas mal de choses. Le système de baston est le même. Exactement le même. Ils ont rajouté des raccourcis. Ils ont bien vu que les joueurs en avaient marre de lancer 4 fois Bravely, 4 fois Default.
Ouais.
Pour rappel, la particularité du système de baston, c'est que on peut en fait anticiper ses tours et dire qu'un personnage attaque 4 fois. Et résultat, pendant les 3 tours suivants, il n'attaquera pas.
Si t'as stocké assez, après tu peux.
Voilà. Ou l'inverse, on peut au lieu de faire du Bravely, on fait du Default. Et dans ce cas-là. On stocke des tours et après on va pouvoir attaquer 4 fois en un tour. Donc ça c'était ça. On retrouve tout ça. On retrouve le Bravely Second, donc consiste en fait à arrêter le temps et à attaquer plein de fois.
Ouais.
Donc ils ont rajouté des raccourcis en fait. Plutôt que appuyer 4 fois pour faire du Bravely, on appuie 1 fois, boum, ça attaque 4 fois.
Et l'innovation de dingue.
Ouais, les sorts maintenant quand tu lances 4 sorts, ça lance pas 4 sorts, ça en lance 2 en fait, mais plus puissant.
Ouais, d'accord.
Voilà, c'est surtout des raccourcis. Pareil pour diminuer les. Ce qui est appréciable dans le premier, c'est qu'on pouvait diminuer le taux de combat si on considérait qu'on était trop fort et qu'on voulait traverser un donjon tranquillement pour trouver les coffres, par exemple. On enlevait le combat puis on les remettait après. Là maintenant, ils ont rajouté ça dès l'écran en fait, l'écran du bas. Il y a un raccourci pour le diminuer tout de suite plutôt que farfouiller dans les menus. Donc voilà, ils ont rajouté du confort.
Ouais.
Mais ça révolutionne rien. On a l'impression de jouer au même jeu. Clairement, on a juste l'impression d'avoir arrêté Bravely Default et d'avoir un post-game et on se refait une aventure. Quoi. Je sais pas si nous referons le coup du twist qui est arrivé dans Bravely Default après, après 30-40 heures de jeu.
Ceux qui ont fait vrai, qui
ce n'est pas un twist, seul, c'est une arnaque.
C'est une arnaque, mais on ne dira rien.
Donc je ne dirai pas parce que je ne suis qu'à... J'ai passé la 15 heures de jeu. Bon, du coup, je ne m'avancerai pas dessus, mais j'ai un peu peur. J'espère pas. Gros changement aussi, changement. Les musiques, ce n'est plus Revo qui s'en occupe.
Enfin, Linked Horizon, c'était le groupe Linked Horizon.
Tout à fait, mais enfin, un groupe, ils changent à chaque fois qu'ils font un album. Il y a que le fondateur qui reste. Hein. C'est le Indochine japonais un peu quand même. Hein.
Oh là là, non.
Et là, c'est du coup, c'est un autre groupe dirigé, je crois, par Ryo. Les musiques sont sympas, clairement. Ça ne se coupe pas, mais on n'a pas la puissance épique de Revo.
De Revo,
clairement.
Ouais.
Sauf les thèmes qui reviennent, forcément. Le thème d'Eternia,
oui,
qui était
oui.
si beau, et ben il est toujours aussi beau parce que c'est le même.
Bah, heureusement.
Donc ils ont quand même ils ont essayé de garder l'esprit, ça marche plutôt pas mal sur certains thèmes. Le thème des combats est moins sympa, clairement. chose que je n'ai pas dit sur les combats et parce que je me suis fait avoir en plus hier vu que j'y jouais, c'était qu'en fait maintenant à la fin du combat, il se peut qu'on nous propose de faire un autre combat. Si on enchaîne sur un autre combat, les points d'expérience et les JP, en fait, pour les job points, sont multipliés par 1,5. Et puis
ouais,
si on accepte encore un autre, 1,8, etc. Mais on nous demande. Mais par moment, on nous demande pas aussi. Donc quand on se dit tiens pour ce combat-là, je balance, je prends mes 4 tours par personnage, donc j'attaque 16 fois et pour battre l'ennemi, ça marche. Mais derrière, boum, nouveau combat et là l'ennemi, bah il a ses 3 tours pour lui.
Il te démonte la gueule, quoi.
Voilà. Donc ils ont mis une petite subtilité là-dessus pour éviter que les joueurs fassent que du Bravely à fond. Bon, ça marche pas trop, hein. On le fait quand même. Mais voilà, c'est il se fait pas sans déplaisir, c'est sympa, Bravely Second. Je suis plutôt content, j'avance bien. Maintenant
pas de laisse,
j'ai juste l'impression de continuer Bravely Default en plus que j'ai fini il y a pas longtemps, quoi.
Ouais.
C'est un peu dommage et ce qui m'embête c'est qu'ils se posent la question, est-ce qu'on fait un numéro 3?
Ils sont drôles, Square.
Bah surtout que le numéro 3 qu'ils veulent faire en plus, c'est ils se posent la question de est-ce qu'on fait une suite comme Bravely Second ou on fait un tout nouveau jeu. J'ai envie de leur dire faites vite un nouveau jeu, mais voilà, peut-être que Bravely Second va exploser sur la fin, mais là c'est pas le cas. Et j'alterne Bravely Second avec des petites parties de Rise of Mana. Là il y a vraiment pas grand chose à dire sur Rise of Mana, donc c'est le dernier Mana, le dernier Seiken Densetsu qui est sorti. C'est un free-to-play mobile au Japon, ils l'ont sorti sur Vita au mois de mai.
J'ai envie de pleurer là.
Ouais, moi aussi. Donc c'est en free to play, on peut le télécharger tranquillement sur PlayStation Store japonais. L'histoire vole pas très haut, hein, c'est deux divinités qui se battent perpétuellement et puis et qui vont se retrouver au milieu des humains avec une forme mortelle.
Sauf que les Seiken, ça a jamais été leur point fort non plus.
Non, c'est vrai. Et ils vont devoir partager le même corps, en fait. Donc l'intérêt, c'est qu'en appuyant sur un bouton, on passe de l'un à l'autre. Chacun ayant ses spécificités, il y en a un qui attaque, qui est court, enfin comment dire, arme de courte portée, donc dague, épée, et l'autre est plutôt lance, donc attaque de loin. Ils ont chacun leur technique. On est toujours accompagné d'un familier dans les donjons. De toute façon, il y a un village, il y a une maison. Le reste est dans la cour du village.
Mais t'as du multi ou pas là-dedans?
Alors moi j'avais lu qu'on pouvait jouer jusqu'à 8. Honnêtement là j'ai pas vu de multi où j'ai loupé un truc peut-être. Hein. Je suis loin de l'avoir fini encore. Hein. Mais j'y joue partie
de l'histoire. C'était un petit peu l'intérêt de Seiken quand même, c'est que tu pouvais brancher ta manette et faire ta petite aventure à deux, quoi.
Ouais, faut que je vérifie un truc parce qu'en fait lorsque les deux personnages donc le héros et enfin le héros. Les deux héros en un et le familier, on va dans un donjon où il nous est demandé de récupérer un troisième compagnon qui peut avoir un niveau des niveaux totalement disparates parce qu'on choisit parmi une liste et où il y a des pseudos de joueurs. Donc je me demande si je pense pas que ça soit des joueurs qui jouent en même temps que moi exactement.
Ah, c'est peut-être du multi ou des avatars à la Dragon's Dogma.
Tout à fait. Ou on récupère des avatars. Faut que je vérifie le truc quand même. Pour le moment, j'ai un peu survolé ça. Et là, forcément, moi, je prends que des. Je suis niveau 11. Je prends que des persos niveau 95. J'ai torché pas mal de chapitres. C'est pour ça que j'y vais juste. Je fais des petites parties rapides. Finalement, je suis quand même au 11e chapitre sur 20.
Ouais, tu vas toucher le jeu en 2 heures, quoi.
Non, peut-être pas quand même. Ce qui me fait peur, enfin, c'est que le jeu. Je suis au 11e chapitre et sur les trophées du PlayStation Store, on peut voir le pourcentage de joueurs qui ont obtenu les trophées.
Oui.
Et en fait, il y a 20 chapitres dans le jeu. Les 4 derniers se débloquent à partir du chapitre 16, 18, 19 et 20. Le chapitre 10 que j'ai débloqué, il y avait 11% des joueurs qui l'ont eu.
Ah oui, d'accord.
Le chapitre 16, 2%. Et le chapitre 18, 0. Donc 18, 19 et 20 ont été débloqués par 0% en fait. Des joueurs.
D'accord.
Donc je me dis,
personne
pourquoi
qui n'a du jeu.
Donc je sais pas trop pourquoi. Pour le moment, donc je suis à 11 chapitres, je n'ai rien déboursé. La partie payante, les microtransactions, concernent exclusivement des cristaux. Et en fait, ces cristaux servent à se ranimer quand on meurt dans un donjon. Sinon, on perd tout et on revient au village.
Une difficulté absolument atroce, je pense.
Peut-être, sûrement. Je sais que chapitre 11, ça commence à être un peu plus tendu. J'utilise un cristal par donjon, alors qu'avant, j'en utilisais jamais.
Non, mais c'est pour ça. Hein.
Je regrette d'avoir acheté deux sets d'objets promotionnels où ce sont des armures des armes, pardon, pas des armures, de jeux différents, comme du FF4 par exemple. qui se monnaye 6 ou 9 cristaux. Mmh. Je regrette un peu parce que du coup je vais être en manque de cristal et tout ça pour des pauvres armes de merde. Bref.
Donc, ouais, du capitalisme japonais, Vidoc.
Voilà, et donc j'ai deux trucs à vérifier tout de même, c'est que voilà, ce troisième partenaire, comment il est géré, ça doit être un avatar. Et si le jeu est... Souvent je me demande si c'est pas du streaming, ou s'il envoie vraiment beaucoup d'infos, mais ça lag à mort. Ouais. Ça, voilà, ça lag à mort. Simplement,
la fameuse maîtrise du hardware japonais.
Des saccades partout. Et je finirai en disant que il est possible de finir le jeu sans jouer, dans le sens où il y a un mode auto. Et dès qu'on rentre dans un donjon, il suffit d'appuyer sur auto et le personnage finit le donjon pour nous.
Pardon ?
Mais pas, il fait pas les combats pour nous. Il finit le donjon. Il fonce jusqu'à la fin du donjon et il tue tout le monde jusqu'au boss.
Ah mais c'est génial.
Les seuls donjons où ça ne marche pas, c'est les donjons à énigmes, où il y a, enfin, énigmes, c'est un grand mot, où il y a des boutons à actionner. Là, l'option, en fait, ne marche pas, le personnage, il bouge pas. Mm-hmm. Il ne rebouge que pendant les combats, du coup.
D'accord.
Mais sinon, tous les autres donjons.
Tu fais juste les énigmes du jeu, sinon le reste, tu t'en branles, quoi.
Et voilà, le reste, et moi, j'ai testé, et l'ordinateur est vachement meilleur que moi. Il défonce les ennemis. Donc j'avoue que par moment, par flemme, bah, je laisse tourner le jeu et je mets en auto et il me finit mon donjon, quoi. De toute façon, il y a pas d'histoire.
C'est une tristesse du jeu vidéo, quoi.
Il y a une histoire que dans la première quête, globalement, et la quête du chapitre. Toutes les quêtes annexes au milieu, c'est du remplissage.
Ah non.
Et il y a pas de scène, en fait. C'est quelqu'un nous demande d'aller récupérer tel objet ou de tuer telle bestiole. On y va, on revient et puis on passe à autre chose.
D'accord.
Donc c'est un petit jeu popcorn qui iOS Android voilà qui s'applique pas trop à la Vita.
Bah ouais forcément
d'autant
c'est le système.
Il doit préparer l'arrivée de Seiken Densetsu 5 l'année prochaine 2016 pour fêter l'anniversaire. Mm. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire.
Surtout avec ce système économique très destiné au téléphone
final. Un peu
dégueulasse
quoi oui voilà.
Bah voilà. Donc, bah voilà, j'ai fini moi avec les petits jeux et ça nous permet d'embrayer, fabuleux, sur les sorties que vous attendez sur le mois prochain. Parce qu'on va pas parler forcément de l'année prochaine, on n'est pas encore en 2016, mais d'ici normalement le numéro 2 de RPG, quels sont les jeux que vous attendez, quels sont les jeux que vous avez peut-être précommandés, que vous comptez faire ? Azura.
Alors, c'est un peu la misère quand même, hein. Enfin, misère.
C'est l'été, hein.
Non, par exemple, si on les avait laissés jusqu'à décembre, j'aurais dit Persona 5, mais bon, il faut
bien
trouver autre chose en attendant.
Bah, il n'y a pas que ça.
Donc bon, à part tous les vieux RPG à finir, vu que tout le monde sait très bien qu'il y a RPG, c'est long, et qu'on n'a pas forcément le temps de tous les finir au moment voulu, il y a quand même Etrian Odyssey, le remake d'Etrian Odyssey 2, donc Etrian Odyssey 2 Untold. Je ne dirai pas le sous-titre par peur d'erreur de prononciation.
The Fartner Knight.
Voilà, merci.
Elle a rajouté un R quand même. Hein.
Fartner Knight. Non mais c'est bon. Hein.
Qui va donc sortir aux US sur 3DS. Alors vu le bon travail qu'il y a eu sur le 1, enfin c'est cette grosse refonte au final, vu qu'on était quand même sur DS, on passe sur 3DS. Au moins, ça ressemble plus à quelque chose. On arrive à quelque chose d'agréable pour le joueur. Avec
le 1 est agréable déjà sur DS.
Oui, mais c'est quand même mieux. Enfin, je sais
il
pas. Pour moi, il y a plus de confort aussi bien visuel qu'au niveau des mécaniques. Et également, bah, rajout de voix, rajout de personnages, de personnalité au personnage. C'est toujours appréciable, surtout dans ce type de jeu où, en général, le scénario, ben, on s'en fout.
Mais déjà, la mécanique en elle-même est un peu archaïque, c'est du dungeon RPG, donc ça fait pas de mal d'avoir un petit rafraîchissement.
C'est ça. Donc, ben, on le prend avec plaisir, et puis bon, ben, le Etrian Odyssey 2 était déjà très bien, a connu une certaine montée de prix à une époque qui n'était pas justifiée, enfin, qui était assez hallucinante. Oui, oui, tous les Etrian Odyssey, à un moment, ils ont eu une petite pique de prix, donc bah, c'est pas
version
mal.
Version
US non, version européenne.
Bah, le 2, il n'est pas sorti en Europe, si. Le 1, oui, mais pas le 2.
Le 2 n'est pas sorti, j'étais sûre, pourtant.
Bah non, bah, sauf si je dis une bêtise, mais le 2 et 3 ne sont pas sortis en Europe.
Donc, mais en tout cas, oui, les jeux avaient connu une certaine montée de prix de manière générale, à part bien entendu pour les versions japonaises qui n'étaient pas qui n'étaient pas. Bah,
qui s'achetaient un million dans un boui-boui.
Ouais.
Mais c'est vrai que bah, ça fait du bien de revoir, parce que oui, le système de jeu, c'est vous êtes dans un dungeon RPG et vous dessinez case par case votre propre donjon. Donc c'est quelque chose de très archaïque qu'on a connu de tout temps du RPG, aussi profond soit-il.
Bah, à l'époque des RPG, on dessinait les cartes. Parce qu'il n'y avait pas Internet, du coup, pas de Solus.
Une époque que je n'ai pas connue.
On dessinait toutes les cartes sur des... sur des bouts de papier.
Sur des petites feuilles doubles quadrillées, c'est ça ?
Eh mais oui. Ah mais tu vois, je sais plus pour quel jeu. J'avais recherché un jeu et j'étais tombé sur un site qui présentait la Solus. Et c'était que des scans de feuilles quadrillées.
Le mec faisait ça pendant ses cours, en fait.
Il a dessiné les plans des donjons comme ça. Mm. Et c'est là où je me suis dit, la Solus date un peu, quand même.
C'est quand même fou, hein.
Très bien, Etrian Odyssey 2.
Mais voilà. Bah, il y a aussi le Lost Dimension sur Vita qui... Alors, il m'attire autant qu'il me fait peur. Un petit peu comme tous ces RPG pas très connus, mais qui sortent sur Vita. C'est-à-dire, on s'attend peut-être à quelque chose de très bien, mais souvent on est déçu. Un petit peu Natural Doctrine et tout ça. Enfin, à voir. Disons, il sort en Europe, j'attends de voir la sortie, les retombées...
Alors, Lost Dimension, un petit peu plus. Moi, des retombées que j'en ai eues, c'est qu'il y a un concept qui est au cœur du jeu, qui a l'air assez intéressant, voire assez génial, mais que pour tout ce qui gravite autour, c'est très classique. Mais c'est par contre, apparemment, il y a l'air d'avoir un core concept, on va dire, qui est assez intéressant et qui a l'air d'innover un petit peu.
Mais voilà, donc j'attends que le jeu sorte et puis pouvoir me faire une idée sur tout.
Voilà.
Et j'ai fait le tour, donc je vais laisser la parole à Vidoc, pour une fois qu'il peut parler au milieu et pas à la fin.
Oh, c'est gentil. Moi, j'attends pas grand-chose du mois d'août, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui sort. Sauf au Japon, où on a quand même quelques RPG sympas.
Excuse-nous de ne pas parler japonais.
Remarque, on a bien parlé de Fire Emblem Eve tout à l'heure.
Certes.
Ah. Et donc un RPG que j'attends vraiment depuis longtemps, depuis que j'ai vu les premiers screens, c'est Raigigant sur Vita, de, si je dis pas de bêtises, de Experience.
Et, ouais, c'est ça. C'est donc le studio qui a fait, on rappelle vite fait, ceux qui ont fait les Ancient Blades.
Qui ont fait Demon Gaze.
Ouais, exact aussi.
Qui ont fait Opération Abyss.
Aussi.
Que j'aurais pu citer dans les jeux que j'étais en train de faire d'ailleurs. Et qu'il y a Opération Babel qui vient de sortir. Ils sont partout, les mecs.
Ouais, mais les jeux sont pas tellement reconnus.
Ouais. Ah bah ça fait très très public de niche, ouais. Raigigant, j'espère que vu son design, il va s'exporter. Je pense quand même, Opération Abyss, ça arrive bien chez nous. Où là, le système du jeu, bah, c'est un dungeon RPG, vue intérieure pour se promener dans les donjons. Donc comme Opération Abyss, Demon Gaze. Par contre, là où le jeu marque vraiment sa singularité, c'est qu'il propose en fait trois scénarios, donc trois personnages qui ne combattent pas ensemble. Chacun a sa propre équipe. On suit les trois équipes dans le jeu. On suppose qu'à un moment donné, ils vont se réunir et que ça va faire le beau trio de fin de partie, étant donné que les combats se jouent qu'avec trois seuls personnages. Et la particularité, bah, c'est le design extrêmement léché des personnages.
Et même extrêmement creepy, j'ai envie de dire, le design du jeu globalement, qui est un peu inquiétant. Et ça me rappelle, pour ceux qui connaissent, je sais pas si ça leur parlera, ça me rappelle un petit peu Sayane Ohuta, donc c'est-à-dire un visual novel super célèbre. Ah mais c'est un petit peu, enfin je sais pas si tu vois les screenshots, mais...
Si, je l'ai fait en entier le jeu, donc je le trouve pas aussi glauque.
Non mais Sayane Ohuta, ouais, mais les screenshots de le Raigigant sont un petit peu inquiétants, je trouve. Et niveau ambiance, en fait, ça me rappelle un petit peu ce côté-là, mais après c'est assez proche, je veux dire, dans l'idée des SMT, avec des démons un petit peu bizarres.
Après, je le mettrais pas au niveau des SMT non plus, pour moi c'est un jeu encore un peu en dessous.
Ah oui.
Non, les SMT, enfin, si tu veux, les monstres, ils m'ont l'air terriblement lambda. Enfin, t'as quoi? T'as un Cerbère, t'as une hydre, enfin.
T'es quoi dans les SMT?
Non, je te parle dans.
Dans Raigigant?
Ouais, Raigigant.
Ah, dans Raigigant.
Okay. Ah oui, mais pour les premiers SMT, qu'on a vus.
Oui.
Mais ils ont vachement insisté sur certains dragons parce que c'est plutôt impressionnant. Ils sont animés, les personnages ont l'air bien animés aussi.
Moi là, je regarde les screenshots, mais je vois des trucs pas très traditionnels. Enfin, je sais pas si vous avez les screenshots sous les yeux, les gars, mais c'est assez spécial parfois.
Ah bah, moi, je trouve ça plutôt original.
Oui, je trouve ça aussi pareil. Ouais, ouais.
Et même quand ça ne l'est pas vraiment, je trouve que le design marque sa différence. C'est vraiment, ouais. Enfin, on reconnaît tout de suite la patte de ce jeu, quoi. Quand tu regardes une image, tu dis c'est bon, c'est Reijig, hein, tu le confonds pas avec un autre DRPG du même
tout
studio.
À fait. Tout à fait.
Donc je trouve qu'il a vraiment une marque visuelle. Les combats, donc forcément ça semble être son point fort. Donc ils insistent beaucoup là-dessus où on voit le personnage de dos.
Oui.
On en voit qu'un seul à la fois. Donc quand en fait on passe
tu
le tour à
action.
Un autre, hop, il se remplace en fait.
Ouais.
On a les ennemis en face, tout est animé. Donc on dirait que c'est de la belle 2D animée. Non, vraiment, moi ça me botte vraiment. De toute façon, il est précommandé, donc ça sera très certainement mon jeu du mois d'août. Voilà, c'est celui que j'attends le plus. Et je mettrai en second jeu Luminous Ark Infinity. Par curiosité. Je vais pas forcément l'acheter à sa
sortie.
Non mais Luminous Ark Infinity, le jeu où il y a plus de nains sur la jaquette que sur toutes les jaquettes qui sont sorties dernièrement, enfin, c'est pas possible.
On rappelle vite fait quand même ce que c'est la série Luminous Ark. C'est une série donc de tactical RPG, faite par Image Époque à la base. C'était un de leurs grands hits d'ailleurs.
Et à raison. Parce que c'est plutôt sympa.
C'est
ils sont pas transcendants, mais c'était des bons tactical RPG classiques,
bon,
certes.
Ouais.
Mais...
Tout à fait.
Mais qui se faisaient sans déplaisir. Moi, j'avais fait le 1, j'ai commencé le 2. Voilà, très sympa. J'ai pas encore le 3.
Mm.
Et ça, c'était une de mes interrogations, de me dire, j'ai pas vu d'infos là-dessus, si le Infinity se passait en tant que 4, ou c'était, non, c'est on reprend la logique de la licence.
C'est pas le PJ qui va pouvoir te répondre, hein, maintenant.
Et donc voilà, je l'attends par curiosité de voir. Puis ça a l'air drôle, un héros, 36 millions de filles pour l'aider. Je comprends qu'Azura ça ne te touche pas, mais mais non, mais voilà. Puis le jeu est surtout très coloré. Ça a l'air très joyeux. Donc je le regarde
joyeux.
Du coin de l'œil.
Ça marche.
Et toi, mon cher Elintia ?
Alors, moi, qu'est-ce que j'attends ? Mais moi, en fait, si je devais vous sortir quelque chose dans le mois, je pourrais sortir aucun jeu. Donc, je vais vous parler vite fait, quand même, de Ni No Kuni 2.
Non.
Non, mais le truc qu'on voyait pas arriver.
Non, mais je prie tous les soirs, j'allume un cierge pour que level 5 annonce Ni No Kuni 2, mais bon, c'est notre histoire, ça.
Ils sortent un Yo-Kai Watch.
Oui, ça, je m'en branle.
Enfin, il est sorti d'ailleurs.
Plus sérieusement, à long terme, sur le long terme, j'attends évidemment mon Nier 2, donc de Platinum Games.
Mais on s'en fout.
Et de Square Enix, non.
Il sera tout raté en plus.
Non.
Mais qu'est-ce que
t'es
méchant ?
Je vais te taper.
Vidoc.
Mais non,
je vais venir dans ton bled paumé là.
Mais c'est qui c'est qui parle de Nier 2 depuis la conférence Square, elle en peut plus. Il pose des Nier 2 sur tous les forums de la Terre.
Non, sinon parce que moi je suis un peu la caution indé aussi du podcast. Je vais parler de deux jeux.
La caution indé,
donc,
j'adore.
Je suis la caution indé, voilà. Donc Indivisible, qui est fait donc par les mecs de Skullgirls. Je vais passer rapidement dessus, mais c'est pour dire juste que. Ouais. jeu de combat Skullgirls.
Comment t'as prononcé ça?
Oui, on s'en fout de mon anglais, hein. C'est pas.
Ah non, je parle plutôt à Azura.
Ah non.
Ah d'accord.
Non,
ok.
Mais...
Donc
non,
Indivisible,
mais...
je reviens au sujet. Indivisible, donc qui a l'air plutôt joli, qui a l'air vraiment plutôt joli. Qui a surtout le compositeur donc des Senken Nanzetsu qui officie sur le jeu et
Kenji
qui va exactement.
Ah.
Et alors soit qui a fait un Kickstarter ou qui va faire le Kickstarter, je ne sais plus. Mais en tout cas le projet a été repris par 505 Games.
Oula.
Ouais,
les gens qui ont jamais eu l'argent.
Voilà, et donc ils vont faire un Kickstarter, et si le Kickstarter réussit, ça marche bien. Par contre, si le Kickstarter se foire la gueule, il y aura plus de jeu, le jeu sera carrément annulé, en fait. Voilà.
Ah, Shenmue 3 style, quoi.
Shenmue 3 style. Et d'un autre côté, c'est Celestian Tales. Ça, c'est un jeu donc créé par des Indonésiens. un petit peu dans leur garage. C'est un RPG qui est un petit peu un hommage à la fois à Suikoden dans l'esprit guerre, politique, etc. Donc c'est-à-dire un peu rébellion. Donc il y a tout ce côté narratif qui est vraiment tiré des Suikoden. Et ensuite, il y a aussi cette mécanique qui vient un petit peu plus de Venus and Braves et des Horishika, où en fait on joue une lignée de personnages et non pas un seul personnage. En fait, on va jouer vraiment les enfants, etc. Et on va pouvoir jouer plusieurs générations comme ça pour pouvoir changer le destin du monde un petit peu.
Non, mais le jeu, il va être super long.
Non, c'est parce que ça, c'est les vies en fait. Les vies vont être vraiment très brèves et on va capter les moments les plus importants des vies, pas forcément toute leur vie.
Venus and Braves, c'est ce qu'ils faisaient, mais c'était du TRPG par contre.
Bien sûr. Mais après, ça reste un RPG, donc ça va durer toujours entre 40 et 50 heures. Ça, bon, c'est toujours un petit peu le même tarif, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup, enfin, j'en prends deux comme ça, mais il y a beaucoup de projets RPG comme ça qui se lancent. Et pour finir vite fait sur un autre projet RPG indé, j'ai envie de parler de Evoland 2.
Ah bah oui, il sort fin août.
Il sort fin août. Et donc pour ceux qui connaissent pas Evoland, premier du nom, c'était donc un jeu qui avait été à la base créé pour une game jam qui s'appelle la Lune d'Air, où le concept en fait était, en gros, on va dire vraiment globalement, de suivre l'évolution des gameplay des Zelda, des action adventure à travers les âges. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passait un cap du scénario, on passait du 8 bits au graphisme 16 bits puis au graphisme 32 bits. Donc c'est, dans l'idée c'était ça, et en fait Evoland 2 améliore un petit peu ce principe. Donc,
ah, c'est pas que Zelda quand même, je te coupe, c'était quand même Zelda, FF, Dragon Quest et Diablo.
FF, Dragon Quest, Diablo, oui c'est vraiment. Après, le core game était Zelda quand même.
T'as trois parties. La première c'est Zelda, la deuxième c'est FF parce que tous les combats sont en tour par tour. Le héros il ressemble à Claude, sa copine c'est Aerys tout craché. Et la dernière c'est Diablo.
Voilà. Donc t'avais ce Evoland 1 donc qui était sorti il y a 2 ans maintenant je crois. Et donc là ils sont partis sur le 2 et donc ils partent toujours sur cette base, ce qu'ils vont faire en fait en même temps un concept à la Chrono Trigger où ils vont voyager dans le temps. Donc c'est-à-dire qu'on pourra tantôt passer d'un gameplay à la Street Fighter, tout d'un coup on va passer d'un gameplay Shoot 'em Up à un gameplay Diablo, etc. Donc ils vont faire un gros melting pot, vraiment un très très gros melting pot, où le gameplay en fait sera justifié par les phases de scénario. Donc c'est assez obscur pour l'instant, on espère que ça va bien rendre.
Ça fait un peu peur, toutes ces gameplays.
Ça va pas être
gameplay,
évident,
en fait.
Parce qu'il y a plus de 10 ou 15 références, donc on verra ce que ça donne.
Ouais.
On verra ce que ça donne. Mais à la toute base, vraiment à la base, c'est vraiment l'évolution du RPG. Ensuite, il y aura des petits agréments qui seront des gameplays un petit peu de tous les styles. Mais je pense qu'il faut. C'est tellement innovant qu'il faudra l'avoir entre les mains pour juger. Voilà.
Ah, mais
et,
c'est pas mal, ça.
Et donc, en chose qu'on attend aussi, je pense qu'il faudra quand même vite fait mentionner la Gamescom quand même qui va arriver en août. Ça va être un gros événement RPG, je pense, notamment
Tokyo Game Show, voilà.
Non, mais ça sera en septembre, on aura déjà. Non, mais ce sera en septembre, on a le temps.
Bon, la Gamescom, il peut y avoir des trucs intéressants, mais c'est pas forcément.
La Gamescom, en fait, le principe de la Gamescom, c'est que t'as du hands-on en fait à la Gamescom, c'est-à-dire que les journalistes mettent leurs pattes sur les jeux et ils peuvent te faire des retours. Donc, ne serait-ce que pour FF15, donc qui sera vraiment super représenté, Square Enix l'a dit, ils vont booster tout à la Gamescom, donc c'est-à-dire que on aura peut-être même
une Duskai 3.0.
On n'aura pas une troisième démo, mais on aura sans doute une date de sortie. C'est pas encore confirmé, mais peut-être qu'on aura une date de sortie apparemment internationale.
Je verrais plus sur le Tokyo Game Show quand même, Square.
C'est les rumeurs qui se disent que apparemment à la Gamescom il y aurait une date de sortie internationale, mais on verra.
2016, tu vois.
Rien n'est sûr. Donc du coup on aura du FF15, il y aura des bornes FF15, donc c'est-à-dire que les journalistes pourront y jouer et pourront nous faire des retours, ce qui est pas mal déjà pour voir les améliorations depuis la Duskai 2.0, c'est-à-dire la démo. Et aussi aujourd'hui il y a Blizzard qui a annoncé sa nouvelle extension de WoW et qui sera donc dévoilée le 6 août, c'est-à-dire dans pas très très longtemps. Ce sera je crois la 5e ou 6e extension de WoW. Et ça va être, je pense, encore un très très gros événement parce qu'on parle pas beaucoup de RPG occidental, mais quand même là, ça va être pas mal.
Ah, mais voilà. Tu seras là pour le représenter dans peut-être RPG numéro 2.
Dans RPG numéro 2, je serai
enfin, surtout le numéro 1.
Le RPG occidental puissance.
Voilà. Mon Dieu, qu'est-ce que
tu sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ce premier numéro. Je vous remercie à tous les deux d'avoir répondu présent.
Mais merci à toi.
Merci de l'invitation.
Je vous remercierai très certainement de nouveau d'être de nouveau présent dans le numéro
2. Il veut nous exploiter, sauvez-nous.
Ah, c'est fort possible.
Oh, quelle mauvaise langue.
Mais non.
Déjà que c'est lui qui fait le montage. Tu vois, au pire, on peut pourrir le podcast et après c'est lui qui va devoir tout rattraper.
Ben oui, toutes les scènes coupées, mais qui seront disponibles en making-of.
Pardon ?
On voit tout de suite celle que ça gêne. Hein. Donc, on va vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne soirée, un bon week-end, selon quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un numéro 2 dans environ un mois. On va essayer de s'y tenir. Et surtout, on attend des retours sur ce numéro 1, parce que c'est un numéro 1, une nouvelle formule, un essai. Et donc, forcément, on ne peut que s'améliorer. Sur ce, ciao, ciao.
Bye.
À plus tard.